On ne va pas se mentir, avec Baya Carla et sa bande, tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.
Et bienvenue dans On va pas se mentir. Je suis ravie de vous retrouver ce samedi comme chaque semaine de 15h30 à 17h. Ce soir, on a trois sujets qui vont vraiment vous faire parler. Gabriel Attal qui se lance dans la course à la présidentielle, qui est choqué. Ou encore Louis Boyard qui veut fermer CNews, quelle arrogance. Ou encore un sujet un peu plus sérieux sur les cyberattaques. Pourquoi la France est-elle devenue la cible favorite des hackers? Tout ça dans les prochaines minutes. Restez avec nous. Bonjour à tous.
Bonjour.
Je vois un petit nouveau.
Bonjour.
Armand.
Petit.
Un petit nouveau qu'on connaît tous.
Un petit nouveau qui prend de la place.
Petit non, mais nouveau oui.
Ravi, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Les auditeurs ont envie de vous connaître. Qui êtes-vous?
Bien sûr. Qui je suis? J'ai exercé plusieurs activités, mais je suis surtout consultant en stratégie politique désormais. Et je vais venir assez régulièrement, je l'espère, dans cette nouvelle émission.
C'est pas
formidable.
C'est pas dit. Attention, on n'a pas signé de contrat encore.
Attention.
Et
je viens
avec
quoi qu'il arrive.
Pas tous en même temps.
Armand. Comme vous l'aurez deviné, d'origine suédoise, évidemment, selon famille. Donc voilà, très heureux de faire partie de cette équipe, très heureux d'être parmi vous et très heureux d'aborder tous ces nombreux sujets aujourd'hui en votre compagnie.
Je sais pas vous, mais moi j'ai très chaud. Il fait très chaud. Aujourd'hui, c'était insupportable. Cette semaine, j'ai l'impression d'être dans le désert. Mais alors ce matin, j'ai vu un truc de fou au travail. Des pieds nus dans l'open space.
Quelle horreur.
Des pieds nus dans quel contexte?
Des pieds dans des espèces de sandales qui puaient d'ailleurs en Bermuda.
Ah sympa.
Je sais pas les sujets de fond.
C'est un sujet de fond. Et c'est surtout un sujet qui divise. Chaque été dans les bureaux, les tenues décontractées au travail, claquettes, Bermuda, robe légère. Est-ce qu'on a le droit de s'habiller comme si on allait à la plage quand on est au boulot? Armand, vous voulez réagir?
Si on travaille à la plage, oui. Je vois pas de problème à ce que le vendeur de churros de Palavas-les-Flots soit en claquettes à la plage.
Très belle référence.
Par contre, effectivement, venir au bureau, je pense qu'il y a un truc qu'on oublie souvent, il y a le savoir-faire effectivement qui dépend de notre travail, mais aussi il y a le savoir-être. Donc venir en entreprise où on est censé être quand même en costume, cravate et avec des mocassins en claquettes et bermuda, moi ça me fait penser, je sais pas si vous vous souvenez de cette série Caméra Café. Comment il s'appelait, j'ai oublié le nom, l'espèce de syndicaliste joué par Bruno Solo qui avait toujours cette chemisette affreuse. Bah, ça me fait un peu penser à ça, quoi. Un peu la beaufatitude et un peu l'égoïsme.
J'ai l'impression que depuis le Covid, les gens ont l'habitude de faire du télétravail et de rester à la maison. Et il y a eu comme une perte du sacré du travail. Et on ne voit plus des gens forcément en costume, etc. Et moi, personnellement, ça me choque. Je trouve qu'il y a quand même un respect à avoir envers ses collègues, les clients. Et le matin, quand j'arrive au travail, j'ai pas envie de voir des pieds qui puent. Qui marche à côté de moi.
Et déjà, ça se voit à la radio, il y a des gens qui mettent même pas de chemise. Enfin, c'est quelque chose que je trouve.
Alors là, Elliot, vous êtes clairement visé.
J'ai compris.
Et puis ceux qui ne se rasent pas.
Et ceux qui ne se rasent pas.
Là. Elliot.
Non, pour moi, c'est surtout l'image qu'on renvoie. On est dans un bureau, on est avec des collègues, on essaye d'être un peu professionnel. Il y a des métiers où on ne peut pas se présenter comme ça pour des questions de sécurité. Mais moi, je trouve que l'image qu'on renvoie, elle est vraiment dégueulasse. Donc, je vois pas l'intérêt de faire ça.
Bah surtout, où est la limite? C'est-à-dire qu'on voit des bermudas. Après, ça va venir avec des débardeurs. Après, en maillot de bain, pourquoi pas? Enfin, ça devient n'importe quoi, Alex.
Bah, moi, à la base, j'allais répondre que je suis totalement anti-tenue d'été au boulot. Mais avec les deux premières réponses, je vais modifier un petit peu ma réponse, l'adapter, parce que je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'avant tout, ça dépend déjà du corps de métier dans lequel on exerce. Si on n'a pas forcément de contact client ou autre, c'est peut-être pas forcément utile de s'apprêter costume-cravate. Et je pense que, comme vous disiez, Elliot, je vous rejoins totalement là-dessus, il y a aussi une part d'image qu'on renvoie, et ça, je pense que c'est un peu propre à nous. S'il y a des gens dans un corps de métier, entre guillemets, sérieux, à qui ça ne dérange pas de venir dans une tenue moins sérieuse, et que ça ternisse leur image, je pense que c'est un peu leur problème. Moi, je suis pas adepte, tout cas pour ma part, mais s'il y a des gens que ça dérange pas, grand
mal à leur face. Moi, je suis assez nostalgique quand même de l'époque où même les ouvriers, le dimanche, mettaient des costumes. Non, mais c'est vrai, je vais passer un peu mais honnêtement, je trouve que à l'époque, il y avait quand même un certain standing, même les ouvriers, les personnes de classe inférieure, classe populaire, avaient quand même des vêtements qui symbolisaient, par exemple, la messe le dimanche, qui symbolisaient le travail, voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est très important.
Moi, je vais vous dire quelque chose. On a travaillé dans notre premier travail ensemble, donc si on peut le dire, c'est le journal L'Incorrect. Un jour, je suis arrivé, donc il faisait très chaud à peu près comme aujourd'hui. Je suis arrivé au travail à L'Incorrect et j'avais mis un bermuda parce qu'il vraiment il faisait une température infernale. Et il y a quelqu'un, un journaliste, qui était un taulier de L'Incorrect, qui s'est tourné vers moi et il m'a dit. Comment tu veux sauver la civilisation occidentale à Bermuda? Et en fait, finalement, je me dis qu'il avait peut-être pas tort.
Non, mais attendez, vous croyez que Napoléon, sous 50 degrés, était en Bermuda? Non, c'est pas possible.
À l'époque de Napoléon, il n'y avait pas encore de réchauffement climatique, donc on n'était pas peut-être jusqu'à 35 degrés. Il y a peut-être un lien avec ça.
Et d'ailleurs, Alex, vous vouliez nous parler de la canicule.
Exactement, parce que pour en revenir sur ce que vous disiez, moi-même qui suis un grand frileux et originaire des Antilles, je le précise, j'ai eu très très chaud ces derniers jours. C'était atroce.
C'est pas la même chaleur.
C'est pas la même chaleur, ça je vous l'accorde. Mais en tout cas, j'ai eu très très chaud cette semaine. Et d'ailleurs, on parle déjà de ce mois de mai comme le plus chaud jamais enregistré en France. Le pic de chaleur, il a été atteint entre lundi et mercredi. On est monté jusqu'à 35 voire 39 degrés dans certaines régions. Mardi, c'était la journée de mois de mai la plus chaude de notre histoire. Et forcément, c'est le genre de moment où la SNCF trouve une excuse valable pour justifier ses retards. Lundi, on a eu un TGV Paris-Nice qui s'est retrouvé immobilisé en pleine campagne à cause d'un problème d'alimentation électrique. Les passagers sont restés à l'arrêt pendant plus de 4 heures sans climatisation dans le train. Écoutez le calvaire qu'ils ont vécu.
Déjà, le fait d'être sorti à l'extérieur, c'est déjà bien. Ouais. Parce qu'à l'intérieur, c'était intenable.
À l'intérieur, c'était insupportable. Une dame avec un bébé, il était complètement transpirant, etc.
La première heure, quand on n'avait pas le droit de sortir, c'était dur. Même pour les gens vulnérables, donc les personnes âgées et les enfants, ça devait être encore plus dur.
C'est pas évident. Bon, heureusement, on a de l'eau, mais bon, on n'a pas tellement d'informations. Et après, à part attendre...
Alors, je vous précise que les voix que vous entendez, ce sont les témoins de la scène qui ont été interrogés France Télévisions. Et la SNCF n'a pas précisé si la panne était liée directement à la canicule. Mais ça n'empêche pas que ça a été 4 heures d'enfer pour les passagers de ce train Paris-Nice.
Non, mais la SNCF, j'arrive même pas à le dire, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une bonne excuse pour que ça ne fonctionne pas bien. Chaque année, on a une nouvelle excuse.
Comme je disais,
c'est quand même scandaleux, je trouve.
Dans une période comme ça,
il n'y a rien. Je sais ce que vous allez me dire. Vous êtes pour la nationalisation de la SNCF.
Privatisé. Alors déjà oui, mais ça n'a rien à voir avec le débat. Non, je vais me faire l'avocat du diable, mais il faut comprendre pourquoi il y a ce genre d'événement à la SNCF dans les périodes de forte chaleur comme celle-ci. Faut pas oublier que le matériel se dégrade. Faut pas oublier que il y a une mise en danger aussi de faire fonctionner ces trains à cette haute vitesse si effectivement toutes les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Alors moi, il m'est arrivé l'année dernière de rester coincé dans 7 heures dans un train, donc autant vous dire que j'aurais préféré être en garde à vue plutôt que dans ce train. Très factuellement,
vous avez l'expérience des deux, c'est ça qui est bien.
Attendez pas tous en même temps,
c'est cette comparaison et cette préférence, mais vraiment, c'était vraiment effroyable. Mais effectivement, les conditions ensuite ont été expliquées. Moi, je préfère que le train s'arrête pendant 4 heures, effectivement, et j'imagine, et je le conçois à quel point c'est horrible comme situation, mais vaut mieux ça que de mettre sa vie en danger.
Autant passer en danger. Chaque année, c'est le même merdier et il n'y a aucune solution qui sont prises.
Cependant, je rejoins là-dessus, tout à fait. Il n'y a aucun prévisionnel qui est fait. Jamais il ne prévoit ce genre de conditions, alors qu'effectivement, on pourrait prévoir. Effectivement.
Et petite question, le train dans lequel vous avez été bloqué, est-ce qu'il y avait au moins la clim dans les wagons?
Bien sûr que non. Il y avait un wagon bar.
En plus, imaginez avec ce gabarit,
c'est-à-dire.
Alors, on va s'arrêter 2 minutes là-dessus.
Parlons de l'autophobie désormais.
On peut s'arrêter 2 minutes aussi sur le gabarit d'Armand.
Elliot.
Alors, moi personnellement, je suis très fan du Japon. Ça ne serait jamais arrivé au Japon. Oh. Voilà. On va pas se mentir. 2 minutes de retard. Et c'est toute la compagnie qui s'excuse. Ici, on est obligé d'attendre 4 heures. Il y a des annulations. Je passe le fait qu'ils sont toujours en retard. Ou que ça coûte une blinde de pouvoir payer un train, et en plus de ça, il est en retard. Donc moi, je ne comprends pas ce qu'attend l'État. Je crois que c'était un ancien Premier ministre qui devait récupérer. C'était Castex, non?
Non, il est RATP.
Oui, mais il devait reprendre la SNCF, entre guillemets. Donc, bon, personnellement, je trouve ça un peu gravissime que la SNCF... Je parle pas des aéroports parce qu'on va rentrer dans une période où il va y avoir beaucoup de gens qui transitent. On va perdre des bagages. La SNCF, il y a beaucoup de délits. Il y a beaucoup de problèmes avec les trains. Ça se dégrade. Je reparle du Japon 2 secondes. Ils viennent de créer un des trains qui va le plus rapidement possible. On fait 40 minutes pour faire 900 bornes, je crois. Accessoirement, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de sujet. Tout est propre. La clim marche. Peut-être il faut s'inspirer des endroits où ça marche.
En fait, ce qui est assez amusant, c'est que ça va un petit peu contre l'idée de la privatisation dans le fond, mais justement, quand on regarde un petit peu dans le fond de ce sujet-là, en fait, ce qui est fascinant, c'est que les Français paient déjà plus de 300 euros par an pour la SNCF sans acheter aucun billet. Ça, c'est le premier point. Et en réalité, c'est un petit peu le même phénomène qu'une sorte de syndrome McKinsey, on pourrait dire. C'est-à-dire que l'État s'est tellement désengagé, finalement, de la SNCF et donc a laissé mourir toutes les petites lignes, notamment celles qui, par exemple, pouvaient relier Clermont-Ferrand et Lyon, celles qui pouvaient relier même Bordeaux donc et Lyon et tout ça. Et en réalité, on en arrive à maintenir uniquement quelques grandes lignes, à mettre finalement assez peu d'argent dedans et à augmenter les prix en parallèle. Et en fait, ce qu'il faudrait théoriquement, c'est des investissements massifs pour rénover tout le réseau et justement faire en sorte qu'il n'y ait plus de panne. On parlait de la canicule de manière générale. Je pense qu'effectivement, il faut une adaptation au réchauffement climatique dans ce genre de situation où effectivement, si on atteint de plus en plus régulièrement des températures de 30, 35, 40 degrés, forcément, c'est bête, mais ça a un impact sur la qualité des rails qui sont forcément déformés oui. par la chaleur. À côté de ça, évidemment, des soucis de climatisation qui doivent être améliorés. D'un autre côté, ça veut dire aussi que peut-être il faut un meilleur roulement entre les contrôleurs, les chauffeurs, etc. Et de manière générale, il faudrait, c'est ce qui a été estimé, à peu près 100 milliards d'euros d'investissement pour remettre à neuf tout le réseau, s'investir dans le fret ferroviaire, parce qu'en réalité, c'est un peu le même problème que le nucléaire. C'est-à-dire que si vous voulez, le nucléaire, on n'a pas investi dedans pendant des années, on l'a laissé mourir petit à petit, et on a trouvé des solutions alternatives. Résultat, aujourd'hui, on ne sait plus faire de centrales, ça coûte extrêmement cher d'en faire une, exemple l'EPR de Flamanville, c'est la même chose avec la SNCF. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'habitude de produire des trains, on en produit parfois pour d'autres pays, mais on n'a plus l'habitude d'en produire pour la France, et si on remettait une industrie ferroviaire, dans le fond, ce serait bénéfique pour la France, et à côté de ça, forcément, on pourrait même vendre ces trains à l'étranger, notamment grâce à Alstom.
Moi, j'ai l'impression quand même que c'est un problème global lié à la France. C'est-à-dire que quand il neige, il y a un souci, quand il y a du soleil, il y a un souci. Enfin, je veux dire, on n'est jamais préparé pour rien.
On n'est pas les seuls non plus.
Il y a des pandémies, oui, mais on n'est pas préparé.
On n'est pas les seuls.
Je me demande ce qu'on fait avec notre argent. C'est quand même aberrant.
C'est pas une question d'être les seuls, c'est surtout que ça n'arrive qu'à nous. C'est-à-dire que moi, je regardais un peu sur...
Seuls, oui.
Non, mais c'est toujours nous qu'on pointe. C'est toujours... Il n'y a pas assez d'argent, il faut réinvestir.
Il y a de l'argent, c'est juste qu'il est mal investi.
J'ai regardé la SNCF, ce qu'elle prévoit. Bon, c'est pas grand-chose s'il y a la clim, des boissons, des choses comme ça. Mais la question qui est de... ils doivent, normalement, avant les périodes chaudes, regarder les rails, vérifier la clim, vérifier les aérations. C'est pas fait. On sait très bien qu'à partir de mai, depuis 4-5 ans, on a des températures très 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 chaude et on va partir sur 4 mois où on doit avoir cette vérification qui est faite de janvier à février, mars. C'est normal, non ?
Et d'ailleurs, il y a un point sur lequel j'étais totalement d'accord avec Alexandre, c'est que j'ai l'impression que le problème de la SNCF, c'est un peu le problème qu'on a globalement en France. Les Français, ils n'ont pas spécialement de problème à payer pour des services tant que les services fonctionnent ouais. bien et correctement. Et c'est l'un des reproches qui est souvent fait à Valérie Pécresse. Elle augmente chaque année de 2-3 euros le prix de la Navigo, mais les services sont de plus en plus déplorables. Et je pense que c'est ça le problème global.
C'est pareil, je suis désolé, l'automatisation des lignes, c'est un énorme progrès pour le coup, un investissement.
On va revenir sur le sujet. Quelle ligne ?
La ligne 14,
qui était
automatisée, la ligne 4 qui est automatisée.
On va revenir sur le sujet de la canicule. Et moi, j'avais un coup de gueule à passer. Je trouve ça fou quand même qu'en 2026, on soit encore obligé d'en parler. C'est des gens qui laissent leurs chiens, leurs chats, leurs animaux dans un coffre de voiture en plein soleil, vitres fermées, 35 degrés dehors et facilement 60 à l'intérieur. C'est la température d'un four. Vous mettriez votre enfant dans un four ? Non. Alors pourquoi votre animal ? Donc j'ai vu des vidéos de passer. Voilà, c'est des passants qui filment, interpellent, même cassent des vitres. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette vidéo. Et tout ça pour sortir des animaux qui sont complètement à bout de souffle. Et voilà, donc il y a eu plein de vidéos comme ça qui sont sorties, qui sont devenues complètement virales. Et ce qui est fou, c'est que je me suis intéressée à la loi. Et en France, laisser un animal dans ces conditions est considéré comme de la maltraitance. C'est 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Mais combien de procès, combien de condamnations ? Presque aucune. Alors je ne sais pas si vous avez vu passer ces vidéos. Armand ?
Oui, non seulement je les ai vus passer, et c'est assez dramatique, et puis je trouve que, tout à l'heure on parlait de la société française, c'est aussi assez symptomatique de la société française, c'est-à-dire que beaucoup réclament le droit. On a le droit d'avoir ça, on a le droit d'avoir un animal, on a le droit à plein de choses en France, et c'est formidable, mais souvent on oublie que les droits vont aussi avec certaines obligations, et avec des devoirs. Et je suis désolé, lorsqu'on adopte un chien ou lorsqu'on adopte un animal de compagnie, peu importe lequel ce soit...
Tu peux même aller jusqu'aux enfants, hein. Quand tu fais des enfants et que tu les laisses, c'est la
bien
même
sûr.
chose.
Il y a bien évidemment des devoirs qui s'accompagnent avec ça, il y a des obligations qui s'accompagnent, vous l'avez dit, c'est aujourd'hui, heureusement, pénalement répréhensible, l'abandon de ces animaux, en tout cas dans les voitures, où on met véritablement en danger la vie de l'animal, parce que sous 35 degrés avec des filtres fermés, enfin déjà, nous, en tant qu'hommes, on a beaucoup de mal à monter dans la voiture, alors j'imagine pas pour l'animal. Et puis là, on arrive bientôt sur la saison des vacances, où beaucoup abandonnent aussi leurs animaux le long des autoroutes et autres. À un moment donné, quand on prend un animal, bah oui, il faut savoir se responsabiliser, il faut comprendre qu'on a des devoirs qui vont avec.
Mais j'ai un coup de gueule, mais j'ai aussi un coup de cœur pour les personnes qui ont cassé la vitre et qui ont appelé les forces de l'ordre. J'ai assez cette vidéo où en fait c'est une femme qui est allée faire ses courses et en fait on aperçoit donc plein de passants qui essaient de forcer la vitre, c'est une vitre de coffre, et en fait finalement au bout de 3 heures quand même, vous vous rendez compte, 3 heures, la dame revient avec les forces de l'ordre et donc elle fait semblant, oh là là mon dieu, j'avais complètement oublié le petit chien dans une cage mais vraiment enfermé dans le coffre, et en fait elle ne s'est même pas excusée. Et en fait, le chien, bah, on sait pas s'il est vivant, on sait pas ce qui va se passer après, on connaît pas les séquelles. Et en fait, j'ai un coup de cœur quand même pour, parce que les réseaux sociaux, c'est parfois quelque chose de négatif, mais il y a quand même une conscience aujourd'hui qui s'est créée et qui permet aussi de faire parfois des bonnes actions. Donc c'est aussi un coup de cœur pour ces personnes-là, Alexandre.
Et je voudrais juste un petit peu compléter ce que disait Armand, qui me semble très intéressant, une fois n'est pas coutume. Mais c'est vrai que, d'une certaine façon, non seulement les droits ne sont plus complétés par des devoirs, mais en fait, les droits sont désormais compensés par d'autres droits. Enfin, c'est une philosophie assez libérale en l'occurrence, mais finalement, pour dire qu'on a des devoirs, on va rajouter des droits. Par exemple, les droits de l'enfant. Les droits des animaux sont des choses qui existent, mais sauf qu'en réalité, le droit de l'animal ou de l'enfant est censé être un droit opposable au droit de, quelque part, au devoir de, au droit de la personne.
Non, mais
au lieu d'imposer des devoirs dans la loi, on rajoute des droits qui sont censés induire des devoirs, mais en réalité, enfin, c'est bête, mais l'animal ne sait pas qu'il a ses droits, l'enfant ne sait pas qu'il a ses droits, et donc forcément, en réalité, ça mène évidemment une déresponsabilisation. Donc, c'est presque une question de philosophie du droit qu'il faut se poser là-dedans, quoi.
Bah, en parlant de philosophie de droit et de devoir, cette semaine, on a appris l'officialisation d'un nouveau candidat pour l'élection présidentielle de 2027. En ce moment, c'est vraiment un jour, un candidat. Et d'ailleurs, on va poursuivre, Alex, si vous voulez bien. Chaque semaine, on aura l'honneur, enfin, vous aurez l'honneur de nous présenter un nouveau candidat à chaque fois.
Bah écoutez, on dirait que oui, mais alors, vous l'avez déjà expliqué en préambule, on sait déjà que c'est Gabriel Attal qui a annoncé sa candidature récemment. Il a fait son annonce depuis Mur de Barret dans l'Aveyron, devant le maire de la commune, des habitants de la ville et des dizaines de journalistes. On écoute ses propos.
Et puis je me suis forgé aussi une détermination à agir. Alors il faudra du travail, il faudra faire des choix, il faudra décider, il faudra la force d'agir. Mais avec la force d'agir, tout est possible. Et c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que, oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
Vous l'aurez compris, Gabriel Attal a donc rejoint la longue liste non exhaustive des candidats pour 2027. Et surtout, il vient prendre une place de plus parmi les candidats de ceux qu'on appelle le bloc central. Pour rappel, entre les annoncés officiels et ceux qui sont pressentis, on a déjà Gabriel Attal, Bruno Retailleau, Édouard Philippe. On aura potentiellement Gérald Darmanin, qui vient d'ailleurs de faire une proposition de loi de moratoire sur l'immigration, vous avez dû le voir. On a Xavier Bertrand qui a annoncé sa candidature depuis 2022 déjà. Et on a aussi Dominique de Villepin qui fait de plus en plus d'apparitions médiatiques, qui a critiqué d'ailleurs Gabriel Attal dimanche dernier en disant qu'il n'avait rien d'un Jacques Chirac. Et puis on a aussi David Lisnard qui a créé son parti et qui commence à prendre de plus en plus de place dans le débat.
Est-ce qu'on peut encore parler de bloc central, Armand?
Bah oui. Oui, et en fait, c'est le problème de toute cette candidature de Gabriel Attal, c'est que où est-ce qu'il se place? C'est-à-dire qu'il y a effectivement déjà un créneau qui est pris. Moi, j'ai écouté ses différentes interventions en interview. Alors, il se veut comme une candidature de rupture. C'est assez ridicule quand même que Gabriel Attal nous présente ça comme une rupture, sachant qu'il a été ministre de l'Éducation, il a été Premier ministre, nous présenter ça comme une rupture, une espèce de révolution dans le paysage politique français.
Ministre du budget aussi.
Ministre du budget, effectivement aussi.
Porte-parole du gouvernement.
Effectivement, enfin, je veux dire qu'il a été au gouvernement suffisamment longtemps pour éviter de se présenter comme une espèce de rupture, comme un révolutionnaire qui veut un vent de fraîcheur en politique. Ça marche pas du tout. Et le créneau est déjà pris. Vous l'avez dit, il y a Édouard Philippe déjà qui est déjà candidat. Comment est-ce qu'il se place face à Édouard Philippe? Il y a Bruno Retailleau, alors qui est peut-être pas forcément du bloc central, mais qui s'en rapproche énormément.
Exactement.
Là où je suis pas d'accord, c'est sur Dominique de Villepin. Pour moi, il fait pas du tout partie du bloc central, à l'inverse. Mais effectivement, il y a aussi Xavier Bertrand qui veut se présenter. Il y a effectivement David Lisnard. Et en fait, la vérité de toutes ces candidatures, c'est que c'est des micro-partis qui sont créés juste juste pour exister. Moi, j'ai bon, il y en a d'autres.
Il y a Elisabeth Borne aussi. Hein,
il y a Elisabeth Borne, il y a Guillaume Casbarian qui a créé aussi son parti de liberté, qui est un parti libéral. Bon, tous ces gens-là, en réalité, créent des microstructures pour pouvoir peser sur l'élection présidentielle. Aucune de ces personnalités, déjà, il faut avoir les 500 signatures. Hein, déjà, faut pas l'oublier.
C'est bien une présidentielle avec autant de personnes où on va devoir faire 9% pour pouvoir aller au second tour.
Mais sauf qu'au final, la vérité, c'est qu'on aura 4 candidats, voire 5 maximum.
Alexandre.
Non, mais alors déjà, il y a effectivement une réflexion générale que j'ai depuis quelques temps, c'est que l'inflation de candidats, c'est évidemment la dévalorisation de la valeur de chaque candidat. Absolument. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous voulez, l'idée générale derrière, c'est qu'il faut un candidat du bloc, on va dire, de Raphaël Glucksmann, en réalité, qui va jusqu'à Bruno Retailleau, pour aller face à Bardella, à la place de Mélenchon, au second tour. En réalité, c'est ça le problème. C'est ça le sujet pour tous ces gens-là. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il y en a un qui arrive à agréger suffisamment, déjà, de ralliement, et ensuite à agréger une sorte de dynamique. Alors, effectivement, vous avez fait la liste des candidats, je vais pas revenir sur tous, mais dans le fond, la question de l'espace politique, pour moi, est assez secondaire, dans le sens où la vraie question, c'est quelle personnalité, finalement, arrive à ramener quelques ralliements avec elle.
Donc, c'était ma deuxième question, mais vous m'avez devancé.
Évidemment, David Lisnard va pas aller jusqu'au bout, évidemment, Xavier Bertrand n'ira pas jusqu'au bout, évidemment, Gérald Darmanin n'ira pas jusqu'au bout, ça c'est évident, on le sait, mais la question, c'est justement lequel parvient à être, d'ici décembre, à 14-15% dans les sondages et à pouvoir justement challenger Mélenchon sur le sujet.
Ben vous l'avez dit.
Mot d'anglais.
Ben vous l'avez.
Je francise. Exactement.
Mais du coup, si je peux me permettre, vous mettez Glucksmann et Retailleau dans le même.
Ouais, parce que en fait, d'une certaine façon, si vous voulez, la question c'est de créer une alternative qui soit entre guillemets républicaine dans le fond et évidemment qui s'adresse pas aux mêmes personnes. Mais je pense
en quoi
que
Glucksmann.
Parce que en réalité, Raphaël Glucksmann va chasser sur les mêmes terres, sur les mêmes terres que Gabriel Attal. Raphaël Glucksmann va chercher sur les terres macronistes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il parle énormément d'international. Macron est positionné exclusivement à l'international depuis un an et essaye de faire. Non mais globalement, il fait plus de politique nationale pratiquement. Raphaël Glucksmann chasse sur ces terres-là. Gabriel Attal également. Et d'autre côté, on a Bruno Retailleau qui lui essaye un petit peu de récupérer tout ce qui peut être du centre droit et d'aller grappiller côté RN. Mais en réalité, Bruno Retailleau va être confronté à une question simple, c'est est-ce que Bardella, s'il est candidat, ou Marine Le Pen d'ailleurs, s'effondre ou pas, auquel cas Bruno Retailleau pourra en bénéficier. Mais sinon, forcément, chacun essaye de trouver son petit espace dans ce centre de néo-arc républicain. En réalité, je pense que tout ça représente une trentaine de pourcents de la population, peut-être 40%. La question, encore une fois, voilà, c'est qui peut remplacer Mélenchon au second tour.
C'est bon, vous avez fini?
Oui.
C'était long. Hein. Ça va, vous n'êtes pas endormi, tout va bien?
C'était très bien.
Alors, je vais rejoindre ce que dit Alexandre. Alexandre Gazin, il a raison. Il a raison sur un point déjà. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui va dicter le candidat du centre, c'est d'abord les sondages. Aujourd'hui, le mieux placé reste Édouard Philippe, qui est à 14%, je crois, d'ailleurs, dans le dernier sondage de Reuters. Voilà, 17%. Donc, c'est le mieux placé. Donc, aujourd'hui, il y a effectivement un candidat du bloc central qui va aller, et je le rejoins de nouveau, de Glucksmann à Bruno Retailleau, parce qu'aujourd'hui, la chasse de tous les candidats se fait au centre, elle ne se fait plus à l'extrême gauche, voire à l'extrême droite, encore que ça veuille dire quelque chose. Mais aujourd'hui, la chasse se fait au centre, c'est-à-dire qu'un Bruno Retailleau n'aura pas de mal à un potentiel second tour à aller essayer chercher effectivement du centre-gauche plutôt que d'aller essayer de chercher des voix à droite.
Vous le voyez au second tour?
Je le vois pas au second tour, personnellement.
Voilà, mais
je
veux dire,
dans ce genre d'hypothèse, c'est ça que je veux dire. C'est qu'un Édouard Philippe va pas s'amuser à aller chercher l'électorat du RN. Et vous le savez.
En fait,
il va plutôt essayer d'aller draguer.
Toutes ces choses-là qui font qu'on suit un candidat, parce que là je vois, moi j'ai regardé aussi, on a 19 personnes qui se sont présentées, on en a 27-28 potentiels. Ça va de candidats qui existent déjà depuis très longtemps jusqu'à des candidats qui sont complètement nouveaux, qui sont des entrepreneurs ou
des influenceurs
des gens qui sont dans les médias, ou alors des personnes qui font partie de l'agroalimentaire. Moi personnellement, s'il y a des bonnes idées, je suis. Aujourd'hui, il n'y a personne qui a une bonne idée ou un programme à me présenter. Je ne vois pas l'intérêt de les suivre.
Mais la dernière élection de 2022, c'était un référendum pour ou contre Macron. Là, la nouvelle élection, c'est pour ou contre le RN, tout simplement. La question, c'est, on sait que le RN sera au second tour. La question, c'est, est-ce qu'il sera 28 ou avec 40?
Si on regarde à droite, on est contre Mélenchon. Si on regarde à gauche, on est contre le RN.
Encore une fois, tout le monde sait que le RN arrivera au second tour. Ça, c'est pas une question. Alors, en revanche, la seule question, c'est justement qui parvient à porter un projet qui fédère suffisamment de gens pour battre le RN. C'est la seule question qui se pose en 2027, la seule. Il n'y en a pas d'autre.
Moi, je pense pas. Je pense pas. Alors déjà, le RN, oui, est très fort aujourd'hui. On verra ce qu'il fera plus tard. Mais pour l'instant, ils n'ont pas de candidat parce qu'ils doivent attendre le 7 juillet l'inéligibilité de Marine Le Pen. Voilà, de Marine Le Pen.
Et je vous apprendrai le français, si vous
voulez. Avec plaisir.
Mais quelle arrogance.
Mais oui,
il faudrait un sixième pot pour l'arrogance.
Donc, Marine Le Pen ou non, Bardella ou non. Ensuite, à côté, on doit trouver un opposant à l'un des deux. Mais est-ce que, si c'est Bardella, est-ce qu'il a les épaules? Parce que, personnellement, il n'y a pas les infos, il n'y a pas l'idée. Les gens suivent Marine Le Pen. Bardella était là pour représenter le parti, mais Marine Le Pen, c'est l'incarnant. Je suis désolé.
Juste Alex et ensuite Armand.
Alors déjà, pour revenir sur Gabriel Attal, c'est vrai que quand je l'écoute, j'ai vraiment l'impression que cette personnalité débarque dans la politique et n'a jamais rien fait sur les 10 dernières années. Donc ça, je trouve ça assez hallucinant.
Il suit son mentor.
Un peu trop, je pense.
Lequel?
Mais par contre, il y a quelque chose que j'ai l'impression que vous ne prenez pas en compte, c'est le taux d'ego qu'ont les candidats qui sont pressentis ou déjà candidats. Moi, je suis désolé, Xavier Bertrand, ça fait depuis 2022 qu'il annonce qu'il est candidat. Là, Armand, vous nous disiez qu'il y aurait que 4-5 candidats. Là, on a quand même dans cette liste des gens qui ont un ego surdimensionné et je ne pense pas qu'ils voudront laisser leur place. C'est mon avis, hein, mais par exemple, quand Xavier Bertrand a été interviewé juste après l'annonce de candidature de Bruno Retailleau, il n'avait pas l'air d'en avoir quelque chose à faire. Pour lui, il allait quand même y aller de son côté. Donc j'ai l'impression que c'est un critère qui n'est pas trop pris en compte. Moi, je pense qu'il y aura plus de candidats que ce qu'on pense.
Armand.
Le rêve de Xavier Bertrand, c'est d'être ministre, pas d'être président de la République. Je pense qu'il a quand même conscience de ses capacités aujourd'hui. Il a conscience qu'il n'aura peut-être pas les 500 parrainages. C'est assez compliqué d'avoir les 500 parrainages.
C'est son rêve depuis bien longtemps aussi. Hein.
Bien sûr, non, mais il ne faut pas oublier que c'est très difficile d'avoir les 500 parrainages. Donc je veux bien qu'on multiplie les candidatures farfelues. Et Francis Lalanne était candidat à l'élection présidentielle 2022. Donc si vous voulez, on peut les multiplier les candidatures. Mais à un moment donné, il y a un truc qui s'appelle le droit et il y a aussi des sondages. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à convaincre aujourd'hui une certaine partie de la population et qu'on ne représente absolument personne, on ne peut pas être candidat. Je ne vois pas du tout Xavier Bertrand représentait une partie de la population. Je suis désolé, ce créneau est déjà pris.
Et j'ajoute, pardon, pour compléter un petit peu ce que dit Armand, que dans le fond, en réalité, quand on arrivera vers décembre, janvier, février, enfin dans les tout derniers mois, parce que là on est encore à un an, hein, mais quand on arrivera dans les derniers mois, bah, effectivement il y aura la question de est-ce qu'on en est à 100 signatures validées ou est-ce qu'on est à 400 ? Et ensuite, il y aura une deuxième question qui est-ce qu'on est à 6% dans les sondages ou est-ce qu'on est à 14%? Et la troisième question qui va se poser, c'est en réalité, est-ce que il y a, en fait, parce que l'objectif de ce, encore une fois, groupe des arcs républicains, c'est de se maintenir. Se maintenir parce qu'ils savent que si Mélenchon arrive, ou si Bardella, surtout si Bardella, le RN arrive, mais si le RN arrive, ou éventuellement si Mélenchon arrive en face, ce sera la rupture absolue avec tout ce qui s'est fait ces 40 dernières années. Et les types veulent rester. Les types veulent rester et ils veulent avoir leur ministère, ils veulent avoir leur petit poste, ils veulent avoir leurs amis. Et j'en finis juste sur un point, c'est qu'en réalité, à quoi ça sert de déclarer une candidature? Ça sert à une chose simple, c'est à dire, bah, en fait, je me rallie à toi, en échange, tu prends tel élément dans le programme et tu me mets comme ministre de l'Intérieur, tu me mets comme Premier ministre, tu me mets comme ministre de l'Économie, etc.
Armand.
Alors, tout à fait d'accord déjà premièrement. Deuxièmement, il y a aussi un quatrième aspect que j'ajouterais, c'est l'aspect financier. Il faut pas oublier qu'une campagne présidentielle ça coûte très très cher et qu'il faut
Edouard
réussir
Philippe
à...
n'a pas d'argent actuellement.
Et qu'il faut réussir
Pécresse,
à avoir
elle est encore en train de rembourser.
Et Pécresse est encore en train de rembourser. L'autre point, c'est que c'est vrai que depuis tout à l'heure on parle du RN, mais on oublie peut-être une candidature qui peut faire beaucoup de mal au RN, c'est celle d'Éric Zemmour. C'est celle de Reconquête. Parce que mine de rien, c'est un électorat qui est assez stable. Sarah Knafou a quand même réussi à faire un score assez.
Après, attention, Paris n'est pas la France.
C'est ça le problème.
C'est deux choses différentes.
Mais faire 10% à Paris, c'est déjà énorme. Mais faire 10% à Paris, c'est énorme.
Justement, ça soulève un autre sujet. À droite, on a quand même beaucoup de candidats. Aujourd'hui, pour un Français moyen, quel est le meilleur choix, d'après vous? Sans vouloir
déjà,
dire.
Ça veut dire que c'est nos choix.
Sans dire vos choix, évidemment.
On a beaucoup de candidats. En réalité, il y aura trois candidats à droite. Bruno Retailleau, qui a déjà acté sa candidature, Marine ou Bardella, et Éric Zemmour ou Sarah Knafou. Il y en aura trois, maximum. C'est-à-dire autant qu'en 2022.
Dans la droite normale.
Il y en aura... Oui.
Parce qu'après, t'as...
Oui, après, il y a le centre-droit, etc. Mais encore une fois,
Mais je parle des gros candidats.
Mais d'une certaine façon, moi, je pense pas, pour répondre à ce que dit Armand, moi, je pense pas qu'Éric Zemmour puisse refaire son coup de 2022 tout seul. Et Sarah Knafou, moi, je pense qu'il y a effectivement une possibilité pour qu'elle ait sa voix, encore que je pense pas qu'elle arriverait à récupérer tout l'électorat RN, c'est que ce soit Jordan Bardella qui soit candidat et que Jordan Bardella s'effondre complètement au cours de la campagne, encore que je le vois très très mal finir en dessous de 25%.
D'ailleurs, en parlant de la droite, j'ai l'impression que c'est un peu has-been maintenant de parler d'union des droites. En 2022, on faisait d'en parler. Aujourd'hui, est-ce que c'est has-been, comme je le pense, enfin,
je pense que c'est pas has-been, et moi j'en entends encore énormément parler, et je pense que c'est pas has-been pour justement que tous les candidats de droite disent qu'ils ne le feront pas.
Non, mais il y a absolument aucune chance que le RN s'allie à Éric Zemmour.
Donc ils en parlent beaucoup pour dire qu'ils ne le feront pas, mais c'est un sujet qui est toujours central. Chaque interview d'une personnalité politique de droite à la télévision, la question arrive systématiquement sur la table et répondent à chaque fois la même chose, mais le sujet est encore totalement central, je trouve.
Il fut un temps où j'avais participé à un truc qui s'appelait la convention de la droite. J'avais participé cet événement. Effectivement, vous avez raison, aujourd'hui ça a peu de sens de parler d'alliance des droites. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a des différences programmatiques réellement idéologique très forte aujourd'hui.
Économique aussi, mais sur le programme économique,
c'est l'économie le problème.
Entre les ultralibéraux, les capitalistes.
Il y a aussi une question d'alliance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Bruno Retailleau n'a absolument aucun avantage à rejoindre le bloc plutôt de l'autre côté de la droite, c'est-à-dire Marine Le Pen ou encore des Éric Zemmour. Il n'a absolument aucun avantage à rejoindre ce bloc plutôt que de rester dans le bloc central. De même, Marine Le Pen n'a absolument aucun avantage à récupérer un Éric Zemmour dans son bloc du RN. Donc aujourd'hui, c'est surtout des questions d'intérêts. Les intérêts ne coïncident plus du tout et cette alliance des droites n'a vraiment pas de sens.
Vous voulez réagir ?
Moi, j'en ai marre de cette droite-là. Elle est complètement débile.
Mais laquelle ?
Rien. Mais toutes les droites, je suis désolé, on en a marre, on est là, on a se batailler. C'est toujours la même chose. Ils se battent tous parce qu'il y a une fois, il y en a un qui a dit du mal de l'autre, et Zemmour, machin, et ils n'ont pas accepté Marion, et ils n'ont pas accepté si. Moi, je suis désolé, on a besoin que tout le monde s'allie.
Mais c'est pas vrai,
bien
c'est
sûr.
Attendez, pas tous en même temps. Mais non, mais en fait, Elliot, le souci, c'est qu'il y a aussi des différences fondamentales.
Mais non, alors moi, je suis d'accord.
Bien sûr que si.
Je vais finir sur un truc. Alors. Oui, ça va être compliqué de trouver une tête forte qui va pouvoir gérer tout le monde. Et tout le monde ne veut pas s'allier parce que y en a qui sont trop extrémistes. Y a un moment, on est dans la merde en France, on est en récession, on a une dette mais colossale. Y a un moment, on se pose et on se dit, tiens, on va créer une team intelligente qui va faire 11 ministres forts, un premier ministre fort, un président fort, rêvez. Et on y va.
Mais oui,
le principe, il est là. Le principe, c'est un, de parler aux Français, deux, de revaloriser le pays, et trois, réindustrialiser. Et après, une fois qu'on aura fait ça, vous mettez qui vous voulez. Vous avez 5 ans.
Moi, je suis en désaccord absolu avec tout le monde. C'est-à-dire qu'en réalité, premier point, je pense que, évidemment, en l'occurrence, ça sert à rien de s'unir tous au premier tour. Ça n'a aucun sens. En réalité, il y a une candidature qui peut ramener 35% ou 30%, etc.
C'est faux.
C'est vrai.
Et
premièrement, il y a ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une candidature qui polarise toutes les autres. C'est celle du Rassemblement National, qui n'a aucun intérêt à s'allier avec les autres. D'accord. Les autres n'ont aucun intérêt à s'allier avec lui parce qu'ils ont intérêt à garder leur singularité et, il faut le dire, un petit peu aussi leur boutique d'une certaine façon, parce que c'est aussi ce qui permet de faire tourner tout un appareil. Oui, mais en l'occurrence, le Rassemblement National n'a aucun intérêt à s'allier avec eux, n'ont pas d'intérêt
à rejoindre le Rassemblement National. Mais gagner au premier tour, ça pose de problème à tout le monde.
C'est impossible de gagner au premier tour. Et deuxièmement, pas en France. Ça n'est jamais arrivé. Deuxièmement, le point, c'est que je ne pense pas qu'il y ait de différence programmatique. C'est-à-dire qu'en réalité, entre le Rassemblement National, qui rencontre le MEDEF très régulièrement, qui s'est allié à l'UDR, qui a un programme ultralibéral, qui en réalité n'a... Enfin, moi, je vous mets au défi de citer trois vraies différences programmatiques entre les LR, le Rassemblement National et Reconquête sur le plan économique. C'est-à-dire que les trois disent on va réduire de entre 50 et 300 milliards d'euros le budget de l'État. Les trois disent on va couper les aides publiques, on va couper les subventions, on va revenir sur le régalien. Moi, je pense sincèrement que les vraies différences qui existent, ce sont des différences effectivement 1, de boutique, 2, d'ego et 3, de stratégie, parce que effectivement certains ont des intérêts à s'allier, d'autres non, et je pense que au global la situation
Armand,
est pas si mal comme ça.
Et Armand, en une phrase, là où je suis totalement d'accord quand vous parlez d'ego, je pense que là où la gauche est vraiment meilleure que la droite, c'est dans le principe de la convergence des luttes. Que la droite ne sait pas faire.
Encore que c'est plus vraiment
5 minutes.
Armand, et ensuite on va changer de sujet.
Réponse rapide à Alexandre, là où je suis absolument pas d'accord avec lui, c'est qu'il me dit qu'il n'y a pas de différence programmatique. Oui, le RN rencontre le MEDEF. Non, le RN ne rencontre pas le MEDEF. Jordan Bardella rencontre le MEDEF. C'est totalement différent. Et je tiens à le préciser. Et deuxième point, il suffit de voir leur vote à l'Assemblée nationale. leur vote à l'Assemblée nationale, parfois, ils n'ont pas de problème à voter avec la France insoumise main dans la main pour des questions sociales.
C'est bien ça le problème.
Pour des questions sociales, pour des questions sociales, pour des aides sociales et autres. C'est le problème ou pas ? Enfin, ça dépend comment on se place.
Oui, bah, c'est sur un problème de principe là-dessus.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que les différences aujourd'hui au sein du RN existent.
Il y a deux courants. Au sein du RN, oui.
Il y a deux courants économiquement d'ailleurs, qui sont absolument pas d'accord. Sur le régalien, effectivement, il y a des accords sur tous les partis de droite, hein, de Retailleau à Éric Zemmour. Je pense que sur le régalien, il y a très peu de divergences. Même d'ailleurs de Bruno, dont on parlait David Lisnard tout à l'heure, on peut même inclure David Lisnard là-dedans.
David Lisnard et Éric Zemmour, en réalité, voilà, ça, les différences programmatiques.
Alors, il n'y a presque aucune différence entre les deux.
Les différences programmatiques sont quand même très légères.
Elles sont très minimes.
En prenant tous les partis de droite, en réalité, sans doute qu'il y en a quelques légères au niveau économique, je peux l'accorder parce qu'il y a des différents courants. Il y a deux courants au sein du RN.
Il y a surtout deux électorats.
Ça, c'est vrai, mais dans le fond, c'est résiduel.
Il y a surtout deux électorats. Moi, je pense qu'il y a une part du RN qui peut s'en aller si, effectivement, le RN se libéralise. Je pense qu'il y a
une part des électorats qui peut
partir. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et on verra ça le 7 juillet, parce qu'effectivement, on verra les résultats de ça. Voilà, je vous laisse la parole, Maya, excusez-moi.
Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il y a un découillage politique.
Oui.
En fait, il y a un découillage politique. C'est-à-dire que même Éric Zemmour, qui, à la base, était arrivé en homme providentiel, sans tous les, on va dire, sans les tocs de politique, de base, énarque, etc. Même lui, je trouve, c'est un peu institutionnalisé. Et aujourd'hui, je prends l'exemple de Javier Milei en Argentine, c'est pas du tout le même pays, c'est pas du tout la même population. Mais j'ose espérer qu'un jour, en fait, la France va tellement tomber bien bas, les gens vont tellement en avoir assez, qu'on va peut-être élire un homme providentiel qui va débarquer comme ça et qui va réussir à réunir toutes les droites. Elliot, vous voulez réagir ?
Il l'a tenté, il l'a pas réussi, basta. Il ne le fera pas.
Non, mais c'est pas pour lancer la pierre sur Éric Zemmour.
Mais on lance pas la pierre sur Éric Zemmour. Il a tenté d'arriver à 3-4 mois d'une élection. Il a fait son score qui est franchement admirable quand on voit les LR ou le PS. Aujourd'hui, moi, pour revenir sur la droite, je suis désolé. Oui, ils n'ont pas forcément de grosses différences, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est comment ils gèrent l'Europe. Et aujourd'hui, notre plus gros problème, c'est comment on gère l'Europe.
Ça nous dit. Mais un tout petit mot sur le providentiel. C'est que, en réalité, la droite s'attache à ça depuis 40 ans, depuis 50 ans. Le résultat, c'est qu'on a eu Nicolas Sarkozy, et pour reprendre une expression d'Éric Zemmour, on voulait le Karcher, on a eu Kouchner. Donc, en fait, en réalité, s'attacher à un homme providentiel du début à la fin, c'est le meilleur moyen pour bosser sur rien, et puis finalement, en fait, se retrouver pour prendre une expression couillonnée par la gauche.
Aussi, voilà. On l'a fait en 2017 avec Macron aussi. Hein.
Oui.
Allez, on va continuer. Avec un sujet qui fait beaucoup parler sur les réseaux cette semaine, c'est le député LFiste Louis Boyard, notre cher ami, qui s'en est pris violemment à CNews sur X. Je cite, CNews est une chaîne de délinquants, ils ne respectent pas les règles de l'ARCOM, le racisme est un délit omniprésent dans leurs émissions, il faut la fermer au plus vite. Voilà le ton. Alors moi, je trouve ça assez amusant quand même pour un jeune garçon qui se vante d'avoir vendu de la drogue sur TPMP. Je trouve ça assez amusant et culotté de qualifier toute une rédaction et des journalistes de CNews de délinquants. Elliot.
Oula. Bah, Louis Boyard, comme d'habitude, hein, quelqu'un de fort sympathique qui sait utiliser les gens pour aller là où il veut.
Non, mais vous rendez compte, excusez-moi, parce que là, ça me vient en tête, vous rendez compte quand même qu'il crache sur une chaîne, sur une filiale qui l'a nourri, c'est quand même fou.
Qu'il l'a fait,
c'est quand même fou. Et aujourd'hui, se nourrit plutôt que de se préoccuper de son programme invisible. Je trouve ça vraiment.
En fait, ça rentre dans le même combat qu'il avait depuis 5 ans, c'est attaquer Bolloré directement, comme la pétition, comme. La plupart des cinéastes qui utilisent l'argent quand bon leur semble.
Mais parce que ça plaît, en fait, quand on dit Bolloré, voilà, ça plaît aux petits gauchistes, ça les excite, ils sont contents de signer des pétitions, et après, comme l'autre abruti, là, comme il s'appelle ?
Jean-Pascal Zadi.
Voilà, oh après, ça va pleurer parce qu'on pense à nos vacances. Ça va pleurer parce qu'après, on pense à nos vacances, à nos salaires et aux testis croustis qu'on déjeune le week-end.
À propos de testis croustis,
j'ai essayé. Alexandre, ne me dites pas que vous avez apporté du master poulet ici.
J'ai mené l'enquête, je vais garder mon avis pour moi.
Alexandre.
Non, mais alors, moi, pour le coup, évidemment, je précise que je suis en désaccord radical avec ce que dit Louis Boyard. En revanche, je pense quand même qu'il y a un souci quand même avec CNews sur bien des aspects. Je pense que la droite refuse d'en parler à chaque fois parce que ça veut dire qu'on passe plus sur les plateaux, ça veut dire qu'on se fait finalement qu'on se met à dos Bolloré, etc. et qu'on se crée des problèmes. Moi, je pense que la droite doit créer sa propre critique du système CNews. La droite doit être capable aussi de voir les défaillances qu'il peut y avoir à CNews. Si les audiences baissent, c'est pas pour rien. Si, d'une certaine façon, le niveau est assez médiocre comparé à bien d'autres chaînes d'information, c'est pas pour rien non plus. Et en réalité, je pense que la gauche a raison sur un point. Encore une fois, je suis contre le fait de fermer CNews, évidemment, mais la gauche a raison sur un point, c'est que oui, CNews n'est pas une chaîne d'information, c'est une chaîne d'opinion. En réalité, les journalistes qui sont là-bas... Les journalistes qui sont là-bas ne parlent jamais de sujets dont ils sont experts ou qu'ils connaissent vraiment bien. En réalité, c'est des types qu'on retrouve sur le même plateau du matin au soir.
Ça s'appelle une ligne éditoriale.
Oui, mais c'est pas la question. C'est-à-dire qu'en réalité, sur FM TV ou sur LCI, que je n'en sens pas du tout, hein, qui ont 1000 critiques, enfin je peux leur faire 1000 reproches, mais en l'occurrence, globalement, ils ont des types qui bossent sur CNews. On a le même type du matin au soir, et pour le coup, je pense que, je dis encore une fois, la droite doit créer son autocritique de CNews différente de celle de la gauche.
Et pour moi, le sujet n'est pas là. Pour moi, c'est une histoire de censure et de dictature de la pensée. Moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, on a une Sandrine Rousseau qui nous dit qu'il faut arrêter de manger de la viande, il faut se transformer en homme soja, on nous dit quoi regarder, enfin c'est quoi la suite? C'est une dictature de la pensée.
Non,
c'est l'extrême gauche, c'est la dictature.
Alors, critiquer CNews, évidemment, on a le droit de critiquer CNews comme n'importe quelle chaîne. Aujourd'hui, il y a des leviers qui existent pour critiquer CNews, les réseaux sociaux notamment. Si on n'est pas d'accord, on peut exprimer son avis. Il y a l'ARCOM qui ne se gêne pas de sanctionner CNews. Je ne vois pas l'intérêt d'aller jusqu'à sa fermeture. Encore une fois, c'est une chaîne privée. Il ne faut pas l'oublier. C'est l'une des seules chaînes de droite, je crois, sur la TNT. Hein. Il y a plus de 16 chaînes. C'est la seule qui soit de droite. C'est la seule qui pose le problème à Louis Boyard.
Et qui n'est d'ailleurs pas financée par le service public.
Et qui n'est pas financée par... indirectement, oui, un petit peu, mais oui. Qui n'est pas financée par le service public. Mais en fait, c'est toujours ça le problème de ce genre de personnage comme Louis Boyard. Louis Boyard, qui, rappelons-le, a été étudiant très peu de temps parce qu'il est devenu bourgeois et riche suffisamment vite pour pouvoir ensuite critiquer
avec notre argent. Non, mais déjà avec notre argent avec l'argent de Bolloré.
Non, mais j'ai beaucoup de mal avec ce genre de personnage de LFI qui se la joue prolétaire pour parler à un certain électorat alors que c'est juste des bourgeois qui s'enivrent à l'Assemblée grâce à notre argent et qui ensuite derrière veulent nous interdire. Alors mai 68, vous vous souvenez de ce slogan, il est interdit d'interdire. Où sont ces boomers? Où sont tous ces boomers qui défendaient la liberté d'expression? Où sont tous ces boomers qui défendaient la liberté?
Aujourd'hui on paye leur retraite.
Et oui, et ils veulent fermer ces news. Pourquoi? Sur quel motif? Moi, je veux bien, très bien. Je veux bien un seul argument pour fermer CNews. Lequel? L'ARCOM a déjà été saisi sur de nombreux sujets, c'est très bien. Est-ce qu'on doit interdire pour interdire? Je vois l'intérêt. Ils veulent interdire CNews juste parce que ça ne leur plaît pas. C'est tout. C'est tout.
Elliot.
Je suis d'accord avec Alexandre. Il y a des sujets sur CNews qui sont un peu, des fois, border, traités de manière un peu concrète.
Et ben on zappe.
Un peu légère.
Oui, il y a une télécommande, c'est simple.
Attendez, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, Alexandre, c'est le sujet de dire que on a une baisse d'audience. L'audience est toujours là, elle fluctue, mais elle reste là. Bah là, elle était là, elle est encore
solide,
là. On la regarde, elle reste solide.
Les trois, CNews est passé derrière justement BFM, en avril, oui, effectivement.
Ça dépend le créneau.
Non, au global.
Non, mais il y a eu un gros débat avec CNews parce qu'ils ont perdu leurs animateurs. Ils ont perdu certains chroniqueurs qui sont normalement pas acceptés sur France Télé, mais qui sont allés sur France Télé. Et moi, le problème que j'ai avec CNews, c'est aujourd'hui, il y a eu des gens qui sont venus, qui regardent quotidiennement CNews, mais il y a une perte de qualité. Donc, est-ce que on va répondre avec une demande d'information de droite correcte avec CNews, ou est-ce qu'on va continuer à baisser et du coup avoir beaucoup de députés LFI qui vont pouvoir attaquer CNews et
mais moi ce qui me dérange, c'est que je trouve ça hypocrite de la part. J'en place une et après je vous laisse faire votre monologue. Merci. Non, moi ce qui me dérange, c'est qu'en fait la gauche se veut
mais la gauche
la gauche veut défendre la liberté d'expression, s'est battue pour cela, et aujourd'hui la seule chaîne sur la TNT, ils veulent la fermer. Mais
non,
quelle arrogance de la part.
C'est pas la seule, ils en ont déjà fermé.
De droite.
Non mais enfin oui, la seule de droite, précisé, oui, la seule de droite,
la seule chaîne de droite.
Et ensuite il y a plusieurs choses. D'abord, c'est que en réalité le vrai problème, c'est que toute la gauche LFI est extrêmement jalouse d'une chose, c'est de ne pas avoir sa propre chaîne.
Et virulente. Oui. Quand elle va sur les plateaux,
ils ont tout le service public pour eux, que ce soit les films. Il y a Drag Race, la dernière fois on en parlait sur France TV. Ça n'a rien à voir, oui, bien sûr.
La gauche, non mais c'est pas le même niveau.
La gauche, le wokisme, excusez-moi. et moi, ce sont des mots quand même similaires. Vous me dites si vous voulez changer de place. Hein. Non, mais parce que là.
Je suis sûr que je serais très bien à votre place. Mais si vous voulez, je peux me rapprocher aussi. Si jamais je vous
sinon,
manque,
vous pouvez sortir du studio aussi.
Non, dites pas ça. Non, mais effectivement, déjà, premier point, c'est que je pense que la gauche LFI, qui se. Donc, pour faire simple, la gauche radicale slash extrême gauche, elle est extrêmement jalouse de ne pas avoir sa propre chaîne et voulait l'avoir avec le média et l'a pas obtenue. Deuxièmement, je pense qu'en réalité, le meilleur moyen pour que CNews évite tous les risques à l'avenir, c'est de travailler plus sérieusement et en réalité de vérifier mieux ces informations parce qu'il y a plusieurs problèmes qui arrivent à ce niveau-là. Il y a de très nombreux signalements et il y a de nombreux dérapages. Troisièmement, je suis d'accord avec effectivement sur cette question de la liberté d'expression. Évidemment que fermer CNews serait une atteinte à la liberté d'expression. En revanche, je pense pas que l'argument du on zappe fonctionne parce qu'en réalité.
Si. Bah, bien sûr que si, mais attendez.
Bah attendez, je vous réponds.
Je veux dire,
je vous réponds à l'instant.
Quand on regardait à l'époque TMC à minuit, non, je on savait réponds. Qu'il fallait supprimer parce qu'il y avait des films
C'est-à-dire que par exemple,
enfin, je veux dire, à un moment donné, ne prenez pas les Français pour des abrutis.
C'est pas ça que je veux dire, c'est que en réalité, mettez que vous écoutez comme beaucoup de personnes CNews 1 heure, 2 heures, 3 heures, plusieurs heures par jour. D'accord, il y a énormément de Français pour qui c'est le cas. Et ben en fait, si jamais dans toutes ces heures, ils arrivent à avoir une certaine forme de confiance envers CNews et justement à prendre CNews comme une forme d'autorité. Pour tout
mais
ce qu'il
vous
dit.
Donc vous prenez les Français pour des cons.
Mais non, mais c'est que
bah,
en fait,
Vous êtes en train de dire.
Laissez-moi finir. Non, ce que je veux dire, c'est que en réalité, pour une personne qui n'écoute que CNews, une personne qui attribue sa confiance à CNews, si CNews elle n'est pas responsable sur son propre travail d'information, effectivement,
j'ai eu la chance quand même de travailler à CNews pendant 6 mois.
Ah, on comprend.
Voilà.
Non,
ça y est,
je ne suis pas
payé
ni par Bolloré ni par personne.
Oui.
Oui, bien sûr. Oui, je suis payé par personne. J'ai un maigre salaire d'alternante.
Avec proposition de poste dans quelques
mais
temps.
Vincent, toutes les informations sont issues de l'AFP, sont des dépêches AFP, donc je ne vois pas en quoi les informations sont fausses. Et je trouve, Alexandre, honnêtement, que vous faites beaucoup de mal à la droite parce qu'on s'en ramasse déjà plein la gueule et je vois pas l'intérêt de donner du grain à moudre à la gauche et à Louis Boyard. Donc
ça, maintenant,
vous appellerez Louis Boyard.
C'est ce qui nous empêche de progresser.
Tout ça pour dire qu'Alexandre Baya s'est retrouvé offensé par vos propos parce que ça la touche directement.
Ça touche directement à sa
d'ailleurs, on va parler de vos amis, les LFistes. Ça sera vos amis maintenant. Il y a une information qui est sortie cette semaine et qui fait beaucoup réagir. Selon Le Parisien, les équipes de Jean-Luc Mélenchon et de Galzin auraient approché plusieurs grandes figures du web et du monde culturel pour les associer à sa campagne présidentielle. Parmi les noms qui circulent, la chanteuse Théodora, l'ancien tennisman Yannick Noah et deux des plus gros influenceurs francophones, Léna Situation et Squeezie. La stratégie est claire, aller chercher les jeunes là où ils sont, sur les réseaux sociaux. Mais attention, aucune de ces personnalités n'a confirmé quoi que ce soit pour l'instant. C'est juste pour mettre un petit disclaimer, voilà, c'est des rumeurs qui tournent, c'est Le Parisien, donc c'est quand même assez fiable. Et le choix des profils est très calculé. Yannick Noah et Théodora parlent aux 30-50 ans. Léna Situation et Squeezie visent directement les 15-30 ans, là où l'abstention est la plus forte. Vous en pensez quoi ? Elliot, j'ai l'impression que vous êtes en désaccord avec moi. Là. Tout le monde est en désaccord avec moi ce soir.
Alors, je suis en désaccord juste sur un truc.
Peut-être pour de bonnes raisons.
Théodora, je pense qu'elle parle à des beaucoup plus jeunes que ça.
Théodora.
Je pense plus 15-25.
Pardon, Elliot, je suis désolé. Est-ce qu'on peut avoir une interprétation Cocolis sous BBL très rapidement ?
Je ne connais pas.
Je suis très déçu.
Mais en fait, ils font ce que font les marques depuis 10 ans. Ils vont chercher des influenceurs pour faire du marketing. Je dis bien marketing et pas marketing. C'est français. Donc, ils font du marketing. Ils vont chercher la masse avec des influenceurs qui sont des niches. Donc, Théodora va parler. En plus, on avait l'exemple la semaine dernière. On a parlé de Samuel Paty, un influenceur qui sort de la projection à Cannes et qui dit « Je vote pour Mélenchon après avoir vu un extrait comme ça, votez Mélenchon ». Donc, ils font ce qu'ils savent faire de mieux, c'est utiliser la presse et les réseaux sociaux maintenant pour faire leur propagande. Bravo.
Alors. Vous aussi, vous êtes tous LFI en fait. Évidemment, pour les auditeurs, c'est une blague.
Non, mais c'est une stratégie qui est très payante jusqu'à maintenant parce qu'effectivement, la France Insoumise est l'un des rares partis politiques à s'être autant emparé du web. Dans du web, j'entends les Twitch et autres, et les influenceurs gaming ou autres. Je pense à Emodem, je pense même à Régé Le Gorilla, si vous voyez, c'est un espèce de critique cinéma qui est juste. Qui fait de la politique sur TikTok. Déguisé en critique de cinéma, qui est devenu un influenceur qui est allé à Cannes, d'ailleurs, qui est allé au festival de Cannes.
Sam Zira. Glenn Cujot, dont on parlait la semaine dernière aussi.
Oui. Et donc, c'est une stratégie payante, et je rejoins Elliot là-dessus, c'est qu'effectivement, ce genre d'influenceur leur apporte énormément d'électorats jeunes, qui ne sont pas forcément politiques, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément politisés, mais qui se font politiser à travers ce genre d'influenceur.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez du post Instagram de Squeezie. Oui. Avec plusieurs slides qui dénonçaient soi-disant
l'extrême. Mais c'était pas le seul, il y en avait des dizaines qui avaient fait.
Oui, il y en avait plusieurs, j'étais tombé là-dessus.
Mais Mister V, le pire, c'est pas ça. C'est que ils choisissent leurs influenceurs et ils descendent les autres. C'est-à-dire que Thibaut InShape a pris, mais une foudre sur les réseaux depuis deux ou trois ans.
Il a dû mettre du mascara pour prouver qu'il n'était pas d'extrême droite.
Mais je pense à Gilles Lelouch récemment. Gilles Lelouch qui a juste voulu s'exprimer sur une polémique et on a fait une polémique. C'est-à-dire que le fait de ne pas prendre position, de ne pas s'exprimer, crée une espèce de polémique où effectivement, c'est tous ces influenceurs justement qui sont dans cette sphère élitiste indirectement. Bah, s'attaque à tous ces gars.
Attendez, on arrive après.
Ouais, parce que j'ai laissé le combat de coq se faire pendant le dos de Baya.
J'arrive dans
la sauce. Et pour le au plus grand malheur de Baya, parce que vous allez sûrement dire que je suis un ami de la LFI aussi, mais.
Eh bah bravo.
C'est un bon dîner de potes en fait. C'est pas nul. Mais en fait, je vois pas le problème et la polémique, et j'ai l'impression que parfois les gens en veulent un peu à LFI d'être bons dans leur domaine.
Oui.
C'est-à-dire que si Gilles Lelouch a rétropédalé, c'est parce que justement il y a eu une pression médiatique amenée par la gauche évidemment, et il a cédé à cette pression. Est-ce qu'on va en vouloir à LFI justement d'avoir gagné le combat idéologique sur cette partie-là, surtout dans le milieu culturel? Et au-delà de ça, Eliott, vous voulez...
Gagner, je ne suis pas sûr. Par contre, ils utilisent ce qu'ils font depuis très longtemps, de la propagande.
Non, mais ce qui est très inquiétant, c'est le choix des influenceurs. C'est-à-dire que Théodora, c'est quand même une certaine personnalité assez...
En fait, vous n'avez pas leur
qui n'est pas forcément représentatif que de ce que je préfère, mais c'est quand même fou de voir le choix...
Comme type musical.
Du type musical, évidemment. Mais c'est quand même fou de voir qu'en fait, ils vont chercher un électorat jeune avec ce type d'influenceur, et ça montre aussi une certaine tendance en France.
Mais ça rejoint ce que je dis, j'ai l'impression qu'on leur en veut d'aller chercher les influenceurs qui sont de leur côté, dans leur camp. Ils ne vont pas aller chercher des influenceurs qui ne sont pas dans leur camp. Ils vont prendre des gens qui sont très visibles sur les réseaux sociaux et qui peuvent rouler pour eux.
Et ensuite, Alexandre, totalement logique.
Très, très rapide. Moi, par exemple, j'aime beaucoup Théodora, j'aime bien sa musique. Bon, je suis pas forcément client.
Écoutez, chacun ses goûts. Hein.
Je suis pas forcément client de ces prises de parole politiques. Maintenant, là où je suis en désaccord total avec vous, c'est que le problème n'est pas qu'ils fassent de la com et qu'ils aillent chercher des influenceurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, défendre Jean-Luc Mélenchon, ça va assez bien. Et en fait, il y a un harcèlement si on défend l'inverse.
C'est-à-dire qu'on
est en train de supprimer petit à petit tout esprit critique dans la part de ces jeunes auditeurs qui
suivent. Parce qu'ils ont gagné sur ce terrain-là.
Attendez, pas tous en même temps, Alexandre.
Alors, moi, il y a plusieurs points. D'abord, Gilles Lelouch, faut pas oublier un point, c'est que la raison pour laquelle tout le monde lui est tombé dessus, c'est pas parce qu'il a pas condamné le RN, c'est parce que dans la question qui était posée, c'était est-ce que vous trouvez pas qu'il y a un parti d'extrême droite fondé par les nazis, etc., qui s'appelle le RN, et que le seul parti de résistance face au Rassemblement National, c'est LFI. Et c'est dans ce contexte de question lunaire que poserait un journaliste de Parole Crépus qui a posé la question, aucun journaliste ne poserait cette question. Gilles Lelouch, évidemment, trouve la question lunaire, et son producteur aussi par ailleurs. Et là, effectivement, tout le monde tombe dessus. En réalité, moi, je pense qu'il y a un point dont parlait Armand et que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une dimension de harcèlement là-dedans. C'est-à-dire qu'en réalité, moi, je pense pas qu'il y ait seulement de la conviction. Il y a une part de conviction, je rejoins Alex là-dessus. En revanche, il y a également une part de pression qui est d'une violence absolument effrayante, dans le sens où Gilles Lelouch a probablement reçu des dizaines de milliers de messages lui disant qu'il était un facho, qu'il était je ne sais pas quoi, en revenant. En plus, on sait qu'il a joué dans Bac Nord, donc forcément ça a dû revenir aussi à l'esprit de certains. On se rappelle que Jean Dujardin, qui est quand même pas non plus un type qui est particulièrement radical, s'était fait tomber dessus et avait été obligé lui-même de faire amende honorable en condamnant symboliquement Valeurs Actuelles, en disant je suis contre la haine, Valeurs Actuelles ne peut pas me reprendre dans sa une, etc. En réalité, il y a une forme de pression permanente qui est réalisée sur chaque personne qui ne va pas au niveau de la LFI, et moi je trouve que pour le coup, là où c'est ignoble, c'est une méthode de harcèlement en permanence.
Mais vous savez, je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue au Festival de Cannes, on en parlait la semaine dernière. Donc je me suis retrouvée avec plein de personnalités du cinéma, j'ai rencontré des réalisateurs, etc. Et en fait, il y en a beaucoup qui m'ont dit et qui m'ont confié, pour citer l'un d'eux, tu sais, Carla, nous on est tous de droite, mais c'est juste qu'en fait on peut pas le dire. Et c'est quand même fou de se dire que les personnes qui sont traitées un peu comme des pantins, les acteurs, etc., doivent représenter la gauche, voire l'extrême gauche, et qu'en fait derrière, les personnes qui sont dans le show business, qui gagnent de l'argent avec ça, sont de droite. C'est quand même fou, rarement.
Mais c'est exactement le cas des streamers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, il y a des événements entre streamers qui sont organisés. Là, il y a eu la coupe, la Crunch Cup, qui est un événement de rugby entre influenceurs.
Ouais, bien sûr.
Et il y a eu le Top Eleven, qui est un événement de football entre influenceurs. Il y a un truc qui s'appelle le Z Event, qui est aussi un truc de streaming. Aujourd'hui, le RN représente, on va dire, 30% de l'électorat global. Forcément, dans les influenceurs, forcément, dans les streamers, il y a 30% de gens qui votent RN. Enfin, c'est mathématiquement logique. Mais imaginez aujourd'hui un streamer dire ouvertement oui je soutiens le Rassemblement National.
Mais c'est ce qu'il a fait, c'est Sardoche.
Sardoche, et il s'est fait cancel de partout.
Il s'est fait cancel de partout. Mais bien sûr, annulé de partout.
Annulé de partout, on dit pas cancel, pardon, je mettrai de l'argent dans le local. De l'argent, moi. Non, mais c'est vrai, il y a un vrai problématique, c'est surtout la problématique qui est posée derrière. C'est pour ça que je voulais absolument vous répondre, Alexandre. C'est une problématique de cancel. Alex, pardon. C'est effectivement un problème de cancel plus qu'un problème de réussir à choper.
Cancel aussi, c'est un peu border. Hein.
Border, non mais ça va.
Border, c'est pas français.
Border, c'est pas français.
Ah oui, c'est vrai. Bah, oui. De pièces.
Allez, le cochon va être riche ce soir.
Je veux juste répondre à Armand en deux secondes là-dessus. Ne vous méprenez pas, je suis pas en train de dire que je suis pro-LFI. Je suis en train juste de dire qu'ils ont gagné sur un terrain. Et on peut pas leur en vouloir d'avoir gagné sur ce
terrain. Historiquement, le divertissement est de gauche aussi.
Non, pas
forcément. Sur tous les points, mais en tout cas, le cinéma, globalement...
C'est des milieux socioculturels de gauche. Oui, mais ça veut pas dire qu'il y a que des gens de gauche. Le problème, c'est que les gens de droite ne peuvent pas s'exprimer dans ces cercles.
Parce que les gens de droite étaient trop occupés à construire le pays et à se battre pour notre civilisation. C'est deux rôles différents.
La culture a construit ce pays, madame.
C'est le fameux pacte qui a été réalisé après la Seconde Guerre mondiale, où finalement, on laisse la culture et l'éducation à la gauche, on prend les ingénieurs et la technique à la droite, et puis, d'une certaine façon, on voit comment ça nous a profité.
Vous écoutez Radio Courtoisie, on ne va pas se mentir, merci d'être avec nous. On va passer tout de suite aux 15 minutes chrono avec Elliot.
Chers auditeurs, la campagne de déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière touche à sa fin. Savez-vous qu'il est possible de transformer cet impôt en un soutien concret pour Radio Courtoisie ? Grâce à notre fondation abritante, vos dons sont déductibles de votre impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% dans la limite de 50 000 euros, permettant même de réduire cet impôt à zéro. Si vous souhaitez orienter votre contribution vers nos projets de développement ou si vous connaissez dans votre entourage des personnes désireuses de nous soutenir par ce biais, devenez nos ambassadeurs. Pour connaître la marche à suivre, contactez dès aujourd'hui notre directrice administrative Amandine Sico en appelant au 07 85 55 90 91 ou au 01 46 51 00 85 ou en envoyant un courrier électronique à secrétariat@rc.fr. Radio Courtoisie ne vit que par vous. Merci pour votre indispensable fidélité.
On ne va pas se mentir, avec Baya Carla et sa bande, tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.
Vous écoutez Radio Courtoisie, on ne va pas se mentir, merci d'être avec nous. Elliot, je vous laisse la main pour les 15 minutes chrono.
Bonsoir Alexandre Allégré-Pilot.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes député de la 5e circonscription du Gard, sous la bannière UDR, Union des droites de la République, le parti d'Éric Ciotti.
C'est ça.
Rallye au RN.
Oui.
Donc, vous êtes avec nous ce soir pour une interview de 15 minutes, chrono.
C'est parti.
J'espère que vous êtes prêts.
Ben, on va essayer. Hein.
Vous avez une image très clivante sur les réseaux. Est-ce que vous aimez provoquer ?
Non, par contre, apparemment, dire la vérité provoque, ou est considéré comme une provocation. Je ne suis pas un homme politique, je suis un homme qui fait de la politique. Et donc, je suis arrivé comme ça par hasard, entre guillemets, ce qui fait que je parle de la même façon que je parlais avant de faire de la politique, et je ne vois pas de raison que ça change. Je pense que les Français en ont marre de la langue de bois, qu'ils ont bien compris qu'on les prenait pour y demeurer, et que ça fait du bien quand on parle français aux Français.
Est-ce qu'on récompense davantage le buzz que le fond ?
C'est un peu les deux. Si vous faites que du fond, vous n'avez pas de buzz, personne ne vous écoute. Si personne ne vous écoute, personne ne vote pour vous. Inversement, si vous faites que du buzz et que vous vous appelez Sandrine Rousseau, vous ne faites pas avancer la société. Donc ce qui compte avant tout, c'est le message. Churchill disait, ce qui compte, c'est d'épuiser le sujet sans épuiser son auditoire. Et c'est tout l'enjeu.
Vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un nouveau moyen pour communiquer avec une population plus jeune ou pour relayer juste vos propos ?
Alors les deux. Relayer mes propos, communiquer avec une population plus jeune, mais aussi une population plus âgée. Parce que j'utilise tout le panel des réseaux sociaux, de TikTok, à Facebook, où on a une population qui est un peu plus âgée que sur TikTok ou sur Twitter. Et surtout, ça me permet de contourner certains blocages, puisque tous les médias ne sont pas comme le vôtre et ne m'accordent pas la parole, notamment à l'échelle locale.
J'ai vu que vous aviez fait l'ENA, donc vous êtes énarque.
Ça arrive.
Est-ce que aujourd'hui être énarque,
tout le monde peut se tromper dans la vie,
est-ce qu'aujourd'hui en France être énarque, c'est encore compatible?
Compatible avec quoi? Alors l'ENA n'existe plus, elle a changé de nom.
En effet.
L'ENA était beaucoup dévoyée par rapport à son projet initial, qui était celui de la méritocratie et celui de former les hauts cadres de la fonction publique dans un pays qui se développait dans les 30 glorieuses, qui avait vraiment besoin de cela pour se cadrer. Et moi, je suis arrivé de façon très naïve avec cette idée-là, parce que je viens du privé à l'origine, hein, je suis arrivé de façon très naïve, et je me suis pris un mur de la réalité qui suit que l'institution était noyautée par pas mal de petits groupes d'intérêts, de copinage, etc., et que la méritocratie y a été énormément entravée. C'est pour ça que je suis le seul élève de ma promotion à avoir attaqué les décisions de l'ENA au tribunal administratif. Bon, l'affaire a été jugée par des énarques, donc vous vous doutez bien que j'ai perdu.
Vous avez donc, suite à l'ENA, été administrateur de l'État à Bercy, sous Bruno Le Maire, qui était notamment ministre, ouais, à ce moment-là.
Et vous avez trahi pour Bruno Le Maire, Alexandre Aigrapino.
Ça arrive aussi à des gens bien, je vous rassure. Hein.
Est-ce que vous avez lu son livre?
J'ai lu des passages et je suis un peu trop sensible pour ça, par exemple.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Bruno Le Maire qui dit que c'est la faute collective, toutes ces dépenses?
Ça, c'est quand on a perdu un match de foot parce qu'on n'a rien marqué, non, qu'on dit ça. Si le ministre de l'économie, qui est, quand même, n'est pas responsable des dépenses de l'État, c'est un figurant.
Bah, il
veut bien
que
prendre sa
lui.
Place à ce prix-là, si vous voulez. On peut se passer du ministre dans ce cas-là.
Ouais, il nous a toujours dit que c'était pas lui. Lui, il a suivi les directives de plus haut.
Bah dans ce cas-là, il faut démissionner. D'autres l'ont fait. On a eu des ministres courageux. Ils ont démissionné avec fracas. Chevènement avait démissionné du gouvernement Jospin sur le dossier de la Corse. C'est un ministre socialiste, vous voyez, mais c'est un ministre qui a été courageux. Je pense qu'il n'y a pas d'excuse. Quand on prend un poste aussi important, on le prend pour l'État, on le prend pour la France. On ne le prend pas pour obéir à un patron, a priori. On veut être un homme d'État avant d'être un haut fonctionnaire. Et donc, si on veut être un homme d'État, c'est pour régler les problèmes, pas pour les mettre sous le tapis. Sinon, personne ne le fera.
On le voit beaucoup revenir en ce moment, Bruno Le Maire. Vous pensez qu'il peut annoncer sa candidature prochainement?
Non, je pense...
Énième candidat?
Je pense que c'est plutôt pour un prochain livre érotique.
Ah.
On a hâte.
On a des petites questions sujet UDR. Donc,
oui, allons-y.
Je sais que vous êtes avec Charles Alloncle et Éric Ciotti un peu dans la lumière en ce moment. Grâce à Charles Alloncle et la dernière commission d'enquête, est-ce que vous pensez que, et surtout les déboires avec ce qui se passe à l'Assemblée, vu qu'il a été visé par des photos prises à son insu avec sa compagne, est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous êtes un groupe à abattre?
Bah, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on fait peur, et ça veut dire qu'on fait peur aux bonnes personnes, parce qu'on a un projet qui est clair, parce que je pense qu'on a une équipe qui n'est pas énorme, mais qui est de très haute qualité. Et qui est un projet qui est bon pour la France, qui est assumé, qui n'est pas un projet autodestructeur comme on peut le voir par ailleurs, ou qui n'est pas un projet de compromission comme on peut le voir de l'autre côté.
J'ai vu beaucoup de sujets sur l'immigration sur votre programme. Je sais qu'aujourd'hui, vous voyez beaucoup plus de contrôle sur l'immigration. Est-ce que vous vous rapprochez un peu d'un ministre comme Gérald Darmanin qui veut faire un moratoire sur l'arrêt pendant 3 ans d'immigration?
Il n'a pas été ministre de l'Intérieur, monsieur.
Si.
Si seulement il avait été ministre.
Et il y pense combien de temps après déjà, c'est ça?
Oh, je crois.
C'est un peu comme Gabriel Attal qui prend des petits points du programme du RN à un moment où il est plus en position. Je ne sais pas qui est encore dupe de tout ça. Le problème, c'est que les gens ont la mémoire courte. Donc vous allez avoir toujours les mêmes magouilles, les mêmes techniques qui ressortent tous les 10 ans, tous les 5 ans. Donc oui, nous, on a proposé ça. Ça fait 2 ans qu'on l'a proposé au moment de la création de l'UDR. C'est assez clair. La différence, c'est que nous, si on est au pouvoir, on le mettra en œuvre.
Donc concrètement, si l'UDR arrive au pouvoir ou est sous un président peut-être RN ou une présidente RN, vous seriez sans doute un poste de ministre, enfin, ou des groupes dans le groupe, il y aurait des personnes qui seraient ministres. Qu'est-ce que ferait l'UDR ou amènerait à ce président comme solution?
Alors l'UDR, on a une petite spécialité, c'est l'économie. On a un ADN assez libéral, on fait beaucoup de travail sur les réformes économiques qui touchent aux retraites, qui touchent au PEA, pour avoir vraiment à nouveau des personnes qui veulent investir dans notre pays, qui veulent travailler dans notre pays, qui veulent y vivre. Et c'est plutôt complémentaire avec le contrôle de l'immigration aussi. Les deux vont ensemble. Vous ne pouvez pas si vous voulez contrôler l'immigration, il faut aussi attirer les personnes que vous souhaitez pouvoir attirer. Et pour cela, il faut donner des conditions bonnes pour leur développement.
On avait juste en une demi-seconde, pardon, mais juste on a l'impression que l'UDR, parfois, c'est la vitrine économique du RN pour dire oui, regardez, on est libéraux, on a l'UDR, et en fait, finalement, le RN reste plus social.
Alors ça, c'est un peu le discours classique qu'on entend. Pour autant, c'est un peu différent dans la mesure où, même au sein du RN, vous avez, voilà, il y a des débats en interne dans les partis. Au sein de l'UDR, il y a des débats aussi. On n'est pas tous d'accord sur certaines propositions de réforme. Après, il y en a un qui tranche de chaque côté, et on définit une ligne et on s'y tient. Donc l'idée, c'est aussi, on ne va pas faire d'une approche marketing, mais c'est pas loin, c'est de se dire comment on a une offre qui est cohérente et qui couvre tout l'univers de ce qu'est la droite, au sens des personnes qui veulent travailler pour leur pays. On va prendre ça comme définition de la droite, allez, allons-y. Qui veulent travailler pour leur pays. Alors, ce qui compte, c'est d'avoir une offre qui soit cohérente et qui soit claire. Contrairement à ce que vous avez longtemps chez les LR, où il y avait une offre, on ne comprenait pas. Vous avez des gens qui étaient des semi-zémouristes, des gens qui étaient des semi-centristes. Au bout d'un moment, le LR, c'était un grand écart, ça a explosé. Là, au moins, vous avez des blocs relativement clairs et vous pouvez choisir ce qui vous correspond.
Eliott, vous reprenez et on ne vous interrompt plus.
Vous venez de Bercy et vous parlez de gens qui doivent travailler pour leur pays. Est-ce que vous pensez qu'on est trop taxé en France?
Ah bah oui, on a le record. Si on avait le record, mais qu'en plus on avait l'aval de tous les citoyens, pourquoi pas? Et qu'en plus on avait les meilleurs services publics au monde, le meilleur niveau de vie au monde, pourquoi pas? Or, on n'a pas le meilleur niveau de vie au monde, on n'a pas les meilleurs services publics au monde, tout se dégrade. Moi, je suis élu d'un territoire rural, on ferme des écoles, on n'a pas de médecins. Il n'y a rien qui va, objectivement. C'est comme si on était dans un pays du tiers-monde, quasiment, à un certain niveau. Hein. La violence augmente. Enfin, vous prenez tous les indicateurs, il y en a très peu qui s'améliorent. Très, très peu. Et ceux qui s'améliorent, on se demande si ce n'est pas un coup de chance. Donc, dans ces conditions-là, on paye beaucoup trop d'impôts. Et ça a une dimension aussi extrêmement déresponsabilisante. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde croit reposer sur tout le monde. Donc, tout le monde dépense plus qu'il ne peut. Et donc, tout le monde s'effondre.
Est-ce que le modèle social n'est pas un peu obsolète pour vous?
Si, il est totalement obsolète. En l'état, on ne peut pas se permettre. On a 1,7 cotisants par retraité. En 2050, on aura 1,3. Rien qu'au niveau des retraites, on va avoir un gros, gros problème d'équilibre qui est connu depuis des années. C'est-à-dire que, vous voyez, on a des cadres qui sont à la tête de ce pays depuis 50 ans et qui savaient, une pyramide démographique, c'est quand même pas très compliqué. On étudie ça au collège, je crois. Vous voyez, on a les meilleurs statisticiens au monde en France. Hein. On a les meilleurs statisticiens. Donc tout le monde sait. L'INSEE, tout ça, tout le monde sait. Mitterrand, vous pouvez trouver à la télé. Il a fait une déclaration dans les années 80 où il explique qu'on allait avoir un problème avec les retraites. Regarde cette pyramide. Et il a dit, oh, c'est à mes successeurs de s'en charger. Donc, typique, on a un problème de modèle social. On vit tout simplement comme si on était encore dans les 30 glorieuses, alors qu'on n'y est plus. Donc, on n'a pas les moyens de financer notre modèle social.
Comment on peut faire pour remettre l'argent dans la poche des Français?
Eh bien, déjà, il va falloir serrer la ceinture de l'État sur les agences. On va la serrer aussi sur tout ce qui ne bénéficie pas directement aux Français, à savoir l'AME. On va la serrer aussi sur la fraude sociale. La fraude fiscale est déjà un travail très fort qui est fait de récupération. Donc notre marge de progrès est assez faible. Sur la fraude sociale, on a une grosse marge de progression. Et puis on va la faire sur les cotisations non contributives pour les étrangers. Donc en faisant ça, on arrive à économiser entre 40 et 60 milliards par an.
Donc on retire l'AME, la CMU.
Oui, exactement. Et on fait une aide médicale d'urgence, vraiment.
En effet. Est-ce qu'on doit baisser les taxes sur les salaires pour les patrons?
On doit baisser toutes les taxes. En fait, Milton Friedman disait « Chaque prétexte pour baisser les impôts est un bon prétexte. » Et Général de Gaulle disait, lui, oui, c'est pas tout à fait le même positionnement politique et économique, disait « Le bon taux d'imposition en France, c'est 33, faut pas dépasser 35%. » On est à combien? 46, 47 40. Vous voyez? Donc, revenons soit à Friedman, soit à de Gaulle. Dans tous les cas, baissons les taxes partout.
Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec l'Union européenne qui nous impose toutes ces normes?
Alors, il y a deux choses. Premièrement, l'Union européenne, parfois, c'est un petit peu l'éventail facile. Quoi. On dit « Ah, mais ça, c'est l'Union européenne qui nous plante. » Alors que de notre côté, on est bien content de rajouter des couches sur les couches que
dans votre territoire rural, comment on fait pour que les agriculteurs puissent s'en sortir avec toutes ces normes?
Ah, c'est hyper compliqué. Donc moi, je lutte systématiquement, premièrement, contre la surtransposition. C'est déjà, on s'occupe de son jardin. Donc déjà, je règle chez moi les problèmes. Donc déjà, j'évite de surtransposer. Mais si on n'arrive déjà pas à le faire. C'est une tendance qu'on a, c'est plus fort que nous, il faut qu'on rajoute des règles en France. C'est notre passion, on est très fort là-dedans, donc on s'étouffe. Premier point. Et après, au niveau de l'Union européenne, c'est là que ça se joue. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le travail qu'il y a à faire chez nous déjà. Mais naturellement, il faut le faire aussi là-bas. Hein.
Vous pensez que les agriculteurs sont abandonnés par l'État ou pas?
Je pense que les agriculteurs sont volontairement mis sous tutelle par l'État. On a des agriculteurs qui sont entre guillemets fonctionnarisés. Si vous regardez le nombre de subventions...
Sans le SMIC. Hein.
Non, mais tout à fait. Ce qui fait que les agriculteurs sont dans la main de l'État. Ce que veulent les agriculteurs, c'est vendre leurs produits à un bon prix sur le marché. Mais c'est pas dépendre d'une PAC, en fait. Vous voyez ? Parce que quand vous dépendez de la PAC, vous dépendez d'un système administratif, du remplissage de dossiers, de procédures, et in fine de l'État. Mais ça, c'est une tendance socialiste, c'est qu'on veut que tout le monde dépende de l'État. Comme ça, on le tient.
D'un point de vue sécuritaire, est-ce que vous pensez que la jeunesse est devenue plus violente ou est-ce qu'on expose plus de faits divers ?
Les deux. Les deux. On en expose davantage et les chiffres le montrent. La jeunesse est davantage violente, la France est davantage violente, alors qu'elle vieillit, par ailleurs. Normalement, ça ne devrait pas être le cas. Quand on a une population qui vieillit, on a moins de violence. Là, on a plus de violence. Depuis 2016, si je prends un indicateur au hasard, mais qui est assez parlant, les tentatives d'homicide ont été multipliées par deux. Alors, nos copains de LFI vont nous dire, vous parliez de LFI tout à l'heure, oui, mais c'est parce que les inégalités ont augmenté. Mais c'est faux. L'indicateur des inégalités, c'est l'indice de Gini. L'indice de Gini, depuis 20 ans en France, il est constant. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et vous prenez les tentatives de viol, vous prenez les viols, vous prenez les meurtres, les tentatives d'homicide, tout augmente. La seule chose qui n'augmente pas vraiment, pas énormément, c'est les cambriolages. Et peut-être qu'on est devenu meilleur pour les contrôler. Et peut-être qu'on n'a plus rien à cambrioler.
La semaine dernière, on avait un sujet sur les cambriolages. Ça a l'air d'augmenter chez les stars, en tout cas.
Oui, il y a des segments qui...
Avec des armes à feu, bien sûr.
Comme il le disait, il n'y a plus rien à voler chez nous, donc maintenant ils vont chez les stars.
Exactement,
c'est peut-être ça aussi.
Ça limite le nombre, vous voyez, le nombre diminue. Peut-être que la valeur augmente.
Yet.
Est-ce que vous pensez qu'on doit remettre la peine de mort ou non ?
Oui.
Sur quelle base ?
Sur quelle base ? On est dans un pays où on n'a aucun problème à tuer jusqu'ici. On a l'avortement, on a l'euthanasie, on a les assassinats commandés par le président à l'étranger. On ne s'est pas gêné pour aller tuer des Français en Syrie, que je sache. Alors qu'on n'était pas en guerre avec eux, officiellement. Donc, ça gêne personne. La peine de mort, c'est se dire on a un individu qui, un, n'est pas réintégrable dans la société, qui, deux, n'a aucune considération pour la société. À quel moment la société devrait avoir un minimum de considération pour elle ?
Donc, il y a des peines sur lesquelles on doit imposer la peine de mort pour vous ?
Il y a des peines où ça doit être une faculté.
Ce serait lesquelles ?
Comme auparavant. Les peines les plus graves. Vous prenez les... Dernières peines de mort qui ont été exécutées dans notre pays. Vous regardez les cas, hein, en particulier, c'est souvent des meurtres avec viol d'enfants, assez très très sordides. Et vous vous posez la question. Moi, ça me choque pas, vous voyez. Surtout que, en fait, c'est une question de principe parce que ça concerne une personne par an. L'euthanasie, ça va concerner peut-être 10 000. Donc, on crée des repoussoirs, des sortes de totems et de tabous, mais qui sont totalement artificiels. Totalement artificiels. Une peine de mort pendant que François Hollande. Diligente, 50 assassinats à l'étranger. Vous voyez, c'est un peu prendre les Français pour des idiots, tout ça.
Vous parlez de François Hollande, vous pensez qu'il peut revenir ou pas du tout ?
Revenir sur son scooter, peut-être, oui.
Si demain la présidentielle avait lieu, est-ce que vous pensez que l'union des droites pourrait être possible ?
Ah bah c'est pour ça qu'on est là. On a créé l'UDR avec Éric Ciotti. C'est dans la perspective de la présidentielle, et pas que. C'est dans la perspective... d'assumer, d'avoir une droite qui s'assume et qui arrête un peu les compromissions avec les socialistes, avec LFI.
Vous faites comment pour allier les droites ?
Eh ben, on les appelle régulièrement. Donc moi, je leur envoie régulièrement des petits messages. Alors, quand est-ce que tu te réveilles ? Quand est-ce que le courage revient ?
Et alors, c'est quoi les réponses ?
Oh, j'attends un peu.
Vous arrivez à parler avec les LR que vous avez quittés ?
Oui, petit à petit, ils vont revenir à la maison parce que leur vraie maison, en réalité, elle est là.
Vous comprenez que David Lisnard puisse partir après l'annonce de Retailleau d'aller directement à la présidentielle ?
Je pense que là, on est sur des sujets vraiment de personne et que c'est je veux être président. Quoi. Enfin, c'est mon interprétation, peut-être que je me trompe. Alors qu'on a un ou deux candidats naturels. Donc, à un moment, il faut arrêter. Il y a des gens qui ne boxent pas dans la même catégorie. Il faut le savoir. Voilà, moi, je ne suis pas un poids lourd. Donc, je ne vais pas aller face à un poids lourd me mettre sur le ring. Parce que
vous avez l'air costaud. Hein.
Ouais, d'accord. Donc, il faut... À un moment, il faut savoir dans quelle catégorie on boxe et arrêter de nous faire perdre du temps et de l'énergie parce qu'on se blesse en faisant ça.
Merci, Elliot. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes autour de ce plateau qui s'agitent. Donc, je vais vous laisser la parole un par un si vous avez une question à poser à Alexandre. Alexandre.
Ouais, peut-être Armand, je l'ai vu, je vois se ronger son frein depuis tout à l'heure.
Non, mais c'était vos réponses étaient plutôt pertinentes sur certains sujets, selon moi, et plutôt amusantes d'ailleurs, puisque vous avez beaucoup d'humour. Mais la peine de mort, enfin, je suis désolé, mais vous venez de comparer quand même l'euthanasie qui est un choix et une peine de mort qui n'est pas un choix. C'est-à-dire que c'est une condamnation. Il y a quand même une différence énorme. Et de même, vous avez dit François Hollande a fait assassiner des Français en Syrie ou des gens en Syrie. D'accord, il faut quand même rappeler les raisons pour lesquelles il les a fait assassiner. Alors, il y a quand même une énorme différence entre les trois points que vous avez abordés et que vous les avez mélangés à souhait pour, je suppose, arriver
je vais
à votre conclusion.
Il y a énormément de différences.
Non,
je vais vous montrer. La peine de mort, c'est celui qui se fait assassiner qui l'a subi. sans jugement. On est d'accord, sans tribunal.
Sauf que l'euthanasie, c'est un choix. Donc il l'a subi par choix.
Je vous parle de la peine de mort. Quand vous tuez quelqu'un dans la rue, il y a une peine de mort. On est d'accord. Il l'a pas choisi. Il n'y a pas eu de tribunal. Quand vous tuez 20, il l'a pas choisi, il n'y a pas eu de tribunal. Donc je vois pas à quel moment la société serait digne de ne pas se débarrasser définitivement de cet individu qui ne lui apporte que du mal. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les assassinats à l'étranger. Commandité par François Hollande, c'est pareil. Il n'y a aucun contrôle judiciaire de ces assassinats. Il n'y a aucun juge. Il n'y a pas de peine. C'est une mort sans peine. Vous voyez à quel point c'est beaucoup plus grave qu'une peine de mort. Une peine de mort, vous avez la défense. Vous avez des procès qui sont respectés.
Il y a un point, pardon, Alexandre Agri-Prilo, où là-dessus, on peut quand même arguer quelque chose de différent. C'est que, par exemple, en Syrie... encore une fois, moi, je suis plutôt de votre position, mais en l'occurrence, en Syrie, François Hollande ne pouvait pas emprisonner à vie les types qui étaient partis faire le djihad. Alors,
je vous dis en Syrie, mais il n'y a pas qu'en Syrie. Hein.
Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, quand on commandite un assassinat, c'est parce qu'en réalité, on ne peut pas prendre la personne chez soi et la mettre... En fait, en réalité, le vrai sujet aujourd'hui, c'est de la peine de mort, c'est est-ce que la peine de mort est justifiée par rapport à l'emprisonnement à vie?
Absolument.
C'est ça la vraie question.
Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, si vous parlez avec 2-3 anciens de la DGSE, ils vous diront que c'est pas ça. C'est juste, parfois, il faut neutraliser le gars, on va pas se casser la tête, on neutralise le gars. Ça veut dire on le bute. Mais il n'y a pas de contrôle judiciaire, il n'y a pas de procès, on ne lui demande pas de se défendre. Ça ne vous gêne pas? Parce que ça, c'est bien pire que la peine de mort.
Le crime est différent. Vous voyez bien que
il n'y avait pas de crime dans certains cas.
Non, mais c'est bien sûr que si, la plupart allaient rejoindre l'État islamique ou étaient déjà affiliés à des groupements islamistes. Donc c'est encore heureux qu'on les ait tués, c'est-à-dire que ça s'appelle la prévention. Dans le cas de la DGSI, effectivement, vous
donc
avez
c'est
raison.
C'est la mort par prévention.
C'est ça, c'est la mort par prévention dans ce cas-là, dans des contextes de guerre. Mais là, on parle quand même de citoyens qui vont être condamnés, sachant que les erreurs judiciaires arrivent. On a l'exemple des États-Unis. En fait, on peut très bien prendre l'exemple des États-Unis où ça n'a absolument rien réglé. C'est un des pays les plus criminogènes au monde et pourtant qui a les lois les plus dures en termes de répression pénitentiaire.
Alors ça démontre rien. Parce que ça démontre pas que le fait de l'enlever l'abaisserait. Vous voyez, c'est un pays qui n'a pas le même rapport au risque et à la vie que nous, les États-Unis. Ils n'ont pas le même rapport au risque. La vie n'a pas la même valeur chez eux que chez nous. C'est comme ça. Nous, on est extrêmement... La preuve, on regarde cette législation. On n'a pas le même rapport. Donc, comparer les statistiques là-dessus, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Et, encore une fois, c'était combien de peines de mort les 10 dernières années? Il y en a combien?
C'est-à-dire les 10 dernières années.
Combien des 10 dernières années pendant lesquelles la peine de mort était en vigueur, combien il y a eu de peines de mort?
Il y en avait une, je crois, parce que c'était la dernière. C'était
voilà.
C'est la guillotine, la dernière.
Entre-temps, il y a combien d'assassinats? Alors, il y a combien?
Attendez, Alexandre,
attendez. Vous me dites que l'euthanasie ne sert à rien.
J'ai pas dit que l'euthanasie ne servait à rien. Mais c'était un choix.
Voilà, mais c'est un choix, mais c'est un choix sur lequel il n'y a aucun contrôle du juge. Encore une fois, moi je vous dis, moi je crois à mon pays et je crois à mes institutions. Le juge est là pour contrôler tout ça. Dans l'euthanasie, il n'y en a pas.
Mais l'euthanasie, je comprends pas. Vous qui êtes libéral d'ailleurs, vous devriez le comprendre. C'est la liberté de choisir. C'est
une personne qui choisit. Si j'ai un problème mental, je ne choisis pas.
Ah bah évidemment.
Il n'y a pas de contrôle du juge.
Non mais il y a un contrôle du psychiatre.
Non, il n'y a pas de contrôle du psychiatre.
Un malade mental. Enfin, j'allais dire un malade mental ne veut pas choisir de
suicider. Si, un dépressif. Peut choisir de suicider.
Un dépressif, oui.
C'est une maladie mentale.
Il faut être diagnostiqué.
C'est une maladie mentale. Un schizophrène, c'est une maladie mentale.
Mais vous ne pensez pas que du fait de nos racines chrétiennes, il y a aussi un... Comment ?
Je vois que ça lance un débat.
Non, mais c'est assez amusant. Je pensais pas qu'on allait
débattre là-dessus. Mais du fait de nos racines, chrétiennes, vous trouvez pas qu'il y a un souci de morale aussi ?
Non. Il y a une différence entre ce que fait l'homme et ce que fait la société, premièrement.
Vous répondez pas à ma question ?
Si, je réponds à votre question. C'est que moi, je suis personne.
Il y a une différenciation entre la société et l'homme, du coup.
C'est pas du tout la même chose.
Oui, mais vous pouvez pas dire à des citoyens qui vivent dans un pays de racines chrétiennes.
Moi, je vous le dis, les yeux dans les yeux. Tu butes 50 Français dans la rue. Eh ben, j'ai aucun problème à ce que tu meurs.
Oui, mais...
Attends, je vais vous poser une question qui est un petit peu liée à celle-ci, mais pour aller un petit peu sur votre philosophie, on va voir si elle est libérale ou pas, mais la GPA, vous êtes pour ou contre?
Contre.
Pourquoi?
Alors, j'ai déjà expliqué dans pas mal d'émissions, mais parce que...
Alors là, on va soulever tous les sujets
c'est toujours amusant la conception du droit par les libéraux, c'est que généralement, en réalité, on arrive toujours dans une situation où, en fait, ils s'amusent à faire quelques tricheries avec, on va dire, les grands principes de Hayek ou de Friedman pour, effectivement, sacrificer au conservatisme. Moi, étant conservateur, ça me pose aucun problème dans le fond, mais en réalité, la GPA, c'est une femme consentante qui loue son corps à deux hommes qui l'acquièrent de manière financière ou pas, de manière consentante. Pareil, la prostitution, vous y êtes favorable ou pas?
Je considère que la traite des êtres humains ne relève pas de la liberté. Et je considère qu'un enfant...
Qu'est-ce qui empêche, par exemple, une prostituée...
Mais voilà, dans l'absolu, il n'y a rien. Voilà, moi, je considère que la traite des êtres humains ne relève pas de la liberté. De même que je considère qu'euthaniser quelqu'un qui a des déficits mentaux ne relève pas de la liberté. Oui. Bah, c'est des limites que je mets moi.
Oui, mais oui, mais oui,
donc,
d'accord.
Okay,
oui,
d'accord. Que okay, c'est pas le cas.
Oui, d'accord. Donc, c'est pas
ce qui veut dire.
Oui,
c'est,
vous arrangez.
Logiquement, c'est pas cohérent.
Mais vous arrangez.
C'est que tout a des limites. Même être libéral. Ça
oui,
a
mais
des
c'est
limites.
Oui, d'accord. Mais c'est oui.
Regardez, si j'étais complètement libéral, ça me gênerait pas que les gens se baladent à poil à Paris.
Elliot, t'as une question.
Quoi?
Si j'étais complètement libéral,
ça me gênerait pas. Attendez, 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 Armand, là, s'il vous plaît, là, c'est insupportable.
Si, c'est cohérent.
Elliot.
Pour revenir un peu dans des sujets un peu moins lourds, est-ce que vous pensez qu'on peut encore parler de gaullisme en 2026?
On peut en parler. Après, moi j'ai une...
Bah, on l'entend sur tous les plateaux. Il n'y a pas un politique qui nous en parle pas.
Bah, qui le met en œuvre?
Bah, je vous pose la question.
Alors, nous, on s'en réclame totalement.
Bah, comment on peut se réclamer du gaullisme sans après-guerre, sans... une sorte de général, hein. C'était un général qui était à la tête du pouvoir. Hein.
Deux choses. Le gaullisme, il a... Enfin, tout le monde pioche ce qu'il voudra. Moi, ce que je pioche chez le général de Gaulle, c'est une haute estime de la France. Ça aide déjà pas mal d'avoir ça comme vision, de son destin. Deux, la volonté de souveraineté première. Sa première montée, sa souveraineté. Le général de Gaulle avait une expression, il disait « Moi, ce qui m'importe, c'est de boire dans mon verre et de dormir dans mon lit. » Mais ça veut tout dire. C'est-à-dire que j'ai pas des grandes ambitions, mais ce que je veux... C'est pas être en risque. C'est être chez moi, avec mes affaires, voilà, calmement, tranquille, sans danger. Et ça, rien que ça, pour moi, c'est des enseignements hyper importants. Trois, c'est qu'il avait une vision qui allait au-delà des partis. Il avait une vision, il voyait la France au-delà des partis. D'ailleurs, les partis, ça l'insupportait. Hein.
Aujourd'hui, on n'arrive pas à faire l'union des droites.
Absolument. Mais on essaye. Mais ça l'insupportait totalement. Donc si on prend ces trois éléments-là, l'idée, on essaie de s'en rapprocher.
Merci Alexandre, vous restez avec nous, on a un dernier sujet.
Allons-y.
Même si vous vous faites attaquer de toutes parts, c'est absolument pas voilà, prévu. Mais vous êtes...
On a tracté Alexandre en pédophilie.
Vous êtes quand même le bienvenu chez nous, évidemment. La parole est libre chez Radio Courtoisie. On va parler d'une info qui est sortie cette semaine. Emmanuel Macron doit se rendre à Clairefontaine pour rendre visite aux Bleus avant la Coupe du Monde 2026. Beau geste, belle image, sauf que quand on regarde de plus près l'agenda du président ces derniers mois, on est en droit de se demander s'il gère un pays ou s'il a souscrit un abonnement grand voyageur illimité. Trouvez-vous que cette visite est justifiée ou non? Je vous laisse la parole.
Le pouvoir, c'est quelque chose en fait de terriblement harassant et nul dans l'absolu, parce que c'est des responsabilités et vous n'avez aucun plaisir. C'est des prises de décision, ça va jamais bien. Donc si on prend le pouvoir dans l'absolu, c'est un fardeau insupportable. Mais pourquoi les hommes politiques cherchent autant le pouvoir? Ben pour les vanités qui y sont associées. Et donc Emmanuel Macron, depuis qu'il est élu, il fait un gros kiff. C'est un gros kiff, mais c'est évident. Il se fait un gros kiff, il voit Mbappé, il le prend dans les bras, il voit machin, il fait un bisou. Il se fait des gros kiffs, il se déguise.
En fait, il est ministre de la culture, si on vous écoute.
Bah, pour moi, c'est un gros kiffeur.
Voilà. Il est ministre du kiff.
Il a raison,
est-ce qu'on peut dire ce qu'est le kiff quand même pour
donc
ce...
la vanité a remplacé la responsabilité. Normalement, il y a un petit équilibre pour justifier. Là, maintenant, c'est
fou. Il est avec Goldshift et Ferrari, maintenant, il a tout réussi. Le tchat d'Emmanuel Macron.
Avec Brigitte, ils se sont quand même fait plaisir avec les fêtes de la musique, les Rihanna à l'Elysée et tout. Mais ça a été vraiment.
Mais après, il y a un point quand même qui est que, évidemment, Emmanuel Macron n'aurait pas fait ça si jamais il avait toujours eu la main sur un petit peu ce qui se passait en France. En revanche, évidemment, c'est plus le cas depuis 2024. Donc, forcément, je serais pas tout à fait d'accord avec Alexandre Aripilo dans le sens où j'aurais tendance à penser que, certes, sans doute qu'il se fait un petit peu plaisir, mais un petit peu plus sérieusement, je pense aussi qu'il essaye de se créer une stature internationale royale dans le sens où il va sur chaque terrain, il va sur chaque conflit, il va donner son avis, il va être présent, il va essayer d'apporter sa propre parole,
etc. Le terrain principal, c'est la France, il n'y est jamais.
Oui, mais parce qu'il n'a plus aucun pouvoir au niveau national. Et en réalité, le seul pouvoir qui lui reste, c'est un pouvoir de représentation et de diplomatie au niveau international. Et donc, sans doute qu'il se fait un petit peu plaisir, mais dans le fond, je pense en réalité que surtout ce qu'il a envie, c'est de laisser une bonne image en disant certes, je ne pouvais plus rien faire au niveau national, mais au moins, regarder à l'international, on avait la classe.
On ne va pas se mentir, en tant que député, vous avez quand même des kiffs, des plaisirs.
Bah, venir vous voir ce soir, c'est un très grand
la cantine de l'Assemblée est pas mal.
Oui, elle est pas mal.
La buvette.
Mais vous voyez, j'ai pas grossi.
La buvette alors.
Je sais pas, j'y vais jamais, j'y doute bien.
Alex.
Remarque inutile, je vous laisse la main, allez-y.
Ok, merci.
Non, je sais le terme au bon moment. Vous réinvitez à la prochaine fois.
Oui, c'est ça. Voilà.
Pour revenir sur Macron, oui, il se fait beaucoup plaisir, surtout avec l'argent du contribuable. On en parlait tout à l'heure, il faut qu'il se serre la ceinture. Moi, le problème que j'ai, c'est qu'il a fait, il a pas une grosse, comment dire, il utilise plus son pouvoir sur la France, mais à l'étranger, il prend la parole quand il n'a pas forcément la parole. Il avait arrêté pendant un discours des personnes qui parlaient pour les interpeller. Moi, je trouve ça pas forcément très respectueux. Il manque en France une personnalité forte. Je pense pas que le Cornu l'a. Et aujourd'hui, je vois pas où on va aller.
Qui se souvient de Cornu?
Moi, je trouve ça fou quand même quand on regarde les images d'Emmanuel Macron. En général, quand il est avec des gens du peuple, il se prend des gifles, des sacs de farine. Il n'arrive pas à communiquer avec des citoyens français. Par contre, je le trouve particulièrement à l'aise avec les people, avec les stars, avec les étrangers.
Personnellement, ça m'étonne qu'il soit pas allé à Cannes.
Oui, c'est vrai.
Vous aurez pu le voir.
C'est vrai.
Et Armand est en train de ronger son frein là.
Non, pas du tout, mais mine de rien, ça fait aussi partie du rayonnement français que de voir le président de la République se rendre et rendre visite aux joueurs de l'équipe de France. Parce qu'on a une très belle équipe de France et je pense que la venue du président participe au rayonnement de la France et encore plus à la visibilité de l'équipe de France.
Je pense que c'est plus un problème global qu'en soi cette seule visite.
Mais alors, parce que je reprends parce que tout à l'heure je pensais que vous vouliez m'interroger sur ce que j'allais dire, mais j'ai quand même un avis sur ce sujet là et je vous le donne. C'est, je vais faire encore mon rabat-joie, mais pareil, je trouve que c'est un bad buzz qu'on fait à Macron, parce que c'est Emmanuel Macron. Si on n'est plus satisfait de ces deux quinquennats, je pense qu'on ne fait pas ce bad buzz-là et on va dire « Ah ben, Emmanuel Macron, c'est super, il a été leur donner de la force, il a été les encourager. » Je pense que là, c'est Emmanuel Macron, alors lui tombe dessus parce que c'est Emmanuel Macron. Faux bad buzz.
Après,
Chirac avait accueilli Madonna, je crois, à l'époque. On l'avait encensé, on disait que c'était formidable qu'il aille voir Madonna. Aujourd'hui, bon, il va voir Mbappé, on le critique parce qu'il va voir Mbappé.
Chirac était aussi un kiffeur.
Et au-delà de ça, je pense que ce que vous disiez juste avant, Baya, sur le fait que Emmanuel Macron s'entend très bien avec tout ce qui est people et personnalité de ce type-là, je pense que c'est aussi le lot d'avoir un président qui est plus jeune que tout ce qu'on a connu avant. Je pense qu'il est un peu plus connecté à cette nouvelle génération, là où je pense que oui, je voyais pas du tout Jacques Chirac aller voir des TikTokers. Là où Emmanuel Macron, je le sens un peu plus dans son élément, et je pense que c'est aussi lié à l'âge, c'est générationnel, je dirais.
Merci. Parfait. Concis. De la main droite, de la main droite. Alexandre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
Un ministère.
De la santé.
De la santé.
Un ministère. Un ministère l'année prochaine, peut-être. De la santé.
C'est tout?
Oui, c'est tout.
C'est tout ce que vous aviez à dire.
Merci. Et puis, réinvitez-moi, voilà.
Bah, avec plaisir.
Avec plaisir.
Merci.
Merci, Elliot.
Si vous déclarez votre candidature la semaine prochaine, n'hésitez pas, on va faire une semaine un candidat. Donc, si vous déclarez votre...
Je vais le faire.
On le met au conducteur de la semaine prochaine.
Merci à tous les Alexandres de la salle, parce qu'il y en a trois.
C'est vrai, on est trois Alexandres. Ça fait beaucoup.
Merci, Elliot. Merci, Armand. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dont on va pas se mentir, de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.
On ne va pas se mentir avec Baya Carla et sa bande tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.